ya juu kiroho, ni viongozi wenye.
This lesson in Swahili is dedicated to all you beautiful people around the world. We say Jambo.
Auditrice, auditeur de Radio Mandeléo, bonjour, bon dimanche. Merci pour l'attention que vous nous démontrez. C'est le moment pour vous de suivre l'émission Paix et Développement, un magazine de débats sociaux, politiques, économiques et de diverses tendances. Nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche 17 novembre 2024. Jean-Claude Sindagué assure la mise en onde devant ce micro pour la présentation. Expédie Kialou. Au menu de cette émission, les fortes pluies qui se sont abattues le long de la semaine n'ont pas été sans conséquences dans la ville de Bukavu et les environs. Déjà, le jeudi dernier, plusieurs dégâts ont été constatés à la place de l'Indépendance. Les eaux des pluies ont emporté une personne l'avant-midi. Une femme descendant d'un bus a été emportée. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard. En revanche, sur avenue Luganda, au quartier Kanoche, un éboulement de terre a provoqué vers 13h30 le même jeudi la mort d'une personne âgée d'environ 60 ans. Il s'agit de Dieudonné Gumbali, habitant de Chikera. La victime creusait une parcelle sur un site impropre à la construction, signale la société civile du lieu. Le même jour, 6 enfants s'en sont sortis grièvement blessés après l'écroulement d'un mur à l'Institut Nyanja au quartier Panzi en commune d'Ibonda. Le drame est intervenu alors que ces enfants étaient en plein cours. Ce bilan et de la bourgmestre à d'intérim de la commune d'Ibonda via un message officiel de compassion. Plusieurs maisons d'habitation ont été envahies par des eaux des pluies. Les marchandises des petits commerçants ont été emportées. Plusieurs familles ont été obligées justement de quitter leur maison. Que vous inspire cet état de choses depuis le retour des pluies dans la ville de Bukavu et sur l'ensemble de la province du Sud Kivu? Nous en parlons dans la première partie de l'émission Paix et Développement de ce jour qui connaîtra une seconde partie réservée essentiellement à la politique. En ces jours à Lubumbashi, le chef de l'État l'a rappelé. Personne, je cite, ne changera mon avis sur cette question. Le président de la République, Félix Tshisekedi, dit, s'engage à réviser et si nécessaire, dit-il, à changer par référendum l'actuelle constitution qui, selon lui, consacre la vente de la souveraineté du pays à certains États africains. En revanche, plusieurs personnalités politiques des mouvements citoyens, des partis politiques de l'opposition ont lancé le week-end dernier un appel contre le changement de la constitution et l'éventuel troisième mandat du président de la République. Selon les membres de cette plateforme, Félix Tshisekedi cherche à rompre le pacte de stabilité pour s'accrocher au pouvoir au-delà de ses deux mandats. Ce mouvement appelle les députés, sénateurs, membres du gouvernement et autres personnalités politiques à prendre publiquement leur distance avec cette initiative de révision constitutionnelle. Ils annoncent une série d'actions d'envergure. Déjà le jeudi dernier, les ténors de ce mouvement étaient dans la rue pour sensibiliser les habitants à s'approprier cette initiative. Certains d'entre eux ont été arrêtés brutalement, puis relâchés à l'instar de l'opposant Deli Sesanga, président du parti politique En Vol. Quelle lecture faites-vous de cette initiative? et comment vous analysez la suite des événements depuis l'annonce du président de la République Kisangani jusqu'à ces jours, une annonce confirmée hier à Lubumbashi. Nous en parlons avec des acteurs sociopolitiques dans cette émission de ce jour. Une fois de plus, bienvenue. Rappelons qu'à partir des 10h00, nous aurons comme invité de ce dimanche le député honoraire Bertin Mubonzi, ancien président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, candidat député national en décembre 2023. Malheureusement, il n'a pas réussi à obtenir un siège. Il répondra aux questions de paix et développement à partir de 10h00. Il parlera de la situation sécuritaire au Nord Kivu, de l'initiative de la révision ou du changement de la constitution vue de l'intérieur au sein de l'UNC et d'autres questions actuelles faisant objet donc de l'intérêt communautaire. Nous allons dans un premier temps parler de l'environnement dans la ville de Bukavu. Vous l'avez suivi dans notre introduction. Plusieurs maisons d'habitation ont été envahies par les eaux des pluies. Les marchandises des petits commerçants ont porté plusieurs familles obligées de quitter leurs maisons. Bilan des pluies qui se sont abattues le long de la semaine dans la ville de Bukavu. Cette situation a bloqué même la circulation sur l'axe Panzi au niveau de la paroisse de Tchaï. La circulation a été bloquée, obligeant certains jeunes à transporter les passagers au dos, notamment devant l'enclos de la paroisse de Tchaï. Des images ont fait la ronde des réseaux sociaux. En début de semaine, sur place, on a constaté des jeunes volontaires se sont mobilisés pour effectuer des travaux communautaires afin d'essayer de déboucher les caniveaux et évacuer les immondices qui ont bloqué la circulation sur cette route. Ces jeunes renseignent que les eaux de pluie sont venues de Tiragaboa, principalement sur l'axe Tchaï-Panzi en passant par Moulengeza 2 jusqu'à envahir la route principale. Le canal d'évacuation d'eau étant bouché, les eaux ont débordé jusqu'à causer des dégâts matériels dans des maisons sur plusieurs avenues. Comme si cela ne suffisait pas, comme vous l'avez donc entendu dans notre introduction, le jeudi dernier, une femme a été emportée par les eaux des pluies, principalement à la place de l'Indépendance. C'était l'avant-midi. Et il faut signaler le contexte. Cette femme, descendant d'un bus, a été emportée. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard. Un homme qui frise une soixantaine a été enseveli des suites d'un éboulement des terres qui a été signalé sur avenue Luganda au quartier Kanoché. Et cette calamité a frappé également des enfants. 6 enfants sont grièvement blessés après l'écroulement d'un mur à l'institut Nyanja au quartier Panzi en commune d'Ibanda. Le drame est intervenu alors que ces enfants étaient en plein cours. Nous recevons dans ce studio certains acteurs pour parler de cette question. Dans un premier temps, le pasteur Migabo Bisimwa Albert Nyagaza, qui est coordonnateur de la synergie des chefs de quartier de la ville de Bukavu. Pasteur Migabo, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à mes frères autour de ce micro, bonjour aux auditeurs, auditrices de la radio Mendeleev.
Nous recevons dans ce studio Daniel Mouroula, qui est analyste indépendant et qui se spécialise sur les questions d'environnement. Daniel Mouroula, bonjour.
Bonjour cher Expedi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mendeleev. Bonjour aussi à tous les concitoyens avec lesquels nous sommes dans ce studio.
Maître Zozo Sakali, il est acteur social et militant au sein du mouvement La Sentinelle du Peuple. Maître Zozo Sakali, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous suivent à pareil moment. Je salue au fait les débatteurs avec lesquels nous serons dans ces studios. Mais aussi, je dis Paul et encore une fois à tous ceux qui étaient victimes de cette pluie du 14 novembre 2024.
Augustin Moudekereza, C'est un communicateur de l'UDPS Tshisekedi, cadre de ce parti politique. Il a été convié à participer à cette émission pour parler de la révision ou du changement de la constitution, mais il est habitant de Bukavu, sûrement qu'il aura à commenter cette question concernant l'environnement dans la ville et dans la province de façon globale. Augustin, bonjour.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mindeléo. Je dis également bonjour à tous les combattants, combattantes de l'IDPS. Et je profite de ce moment pour annoncer que la journée de la base qui a été prévue aujourd'hui est reportée à dimanche, et pour des raisons évidentes. Et là, c'est une communication du coordinateur du cadre du cercle d'analyse stratégique de l'IDPS que j'ai relayé, monsieur David Amiskininga.
Nous recevons également Emmanuel Moulindo, qui est cadre du PPRD, membre du COREP Sud Kivu. Emmanuel Moulindo, bonjour.
Oui, bonjour Expedi Kalou, bonjour à tous les amis qui sont avec nous autour de cette table, bonjour à toute la population du Sud Kivu qui nous suit à pareil moment. Nos condoléances à tous ceux-là qui ont été frappés par cette calamité. Hier, c'était les incendies dans la ville de Bukavu, aujourd'hui les pluies. On ne sait plus à quel saint c'est voué, et donc il y a à faire par ceux-là qui nous dirigent, parce que diriger, c'est aussi prévoir.
Dans cette émission, nous allons recueillir en ligne au téléphone l'intervention du ministre provincial de l'environnement et porte-parole du gouvernement provincial, le ministre Didier Kabi Lougagnon. Il va intervenir à un moment donné dans cette émission pour nous dire les dispositions qui sont prises pour contenir la situation. Dans un premier temps, pasteur Albert Migabo, quel état des lieux faites-vous cette semaine au terme des pluies qui ont été enregistrées dans la ville de Bukavu? Vous êtes justement le coordonnateur de la synergie des chefs de quartier de la ville de Bukavu. Quel constat a été effectué et quel bilan dressez-vous? Quel état des lieux? Comment présentez-vous la situation dans la ville?
Ah, merci beaucoup, Expedi. Vous avez déjà fait quand même les tableaux sombres de cette catastrophe que nous avons vécu pendant toute la semaine. Vous avez parlé de catastrophe au niveau des Bagira, au niveau des Panzi, au niveau même de la place de l'Indépendance. Nous avons perdu une jeune maman qui était dans un bus en provenance de Verbrasserie et arrivait tout droit, tout juste au niveau de la place, comme il s'est dirigé vers Kadutu. Tout juste après, là où les mamans vendent les farines, il y a les eaux en provenance, abondantes là, en provenance de Kadutu vers Anamo. Et les bus, les véhicules, pas seulement ces bus-là, mais les véhicules ont eu difficile d'avancer. Et il y a un jeune garçon qui a sauté rapidement dans ces bus. Et là, comme il y avait déjà des stress, il y avait des désolations, et il y a déjà la maman qui a voulu faire la même chose. Malheureusement, quand elle a voulu sauter, elle a fait un faux pas, et puis elle a glissé dans un caniveau. Elle a été emportée, malheureusement. Elle a été retrouvée tout juste en dessous de chez Kabati, vers la botte, au niveau de l'embouchure qui mène jusque vers le lac. Nous présentons nos condoléances à cette famille. N'oubliez pas aussi, Expedi, que la fois dernière, ici à Mung, ici à vers Météo, on a perdu, il y a trois maisons qui ont été écroulées les mêmes jours-là, et la famille reste vraiment, passe les nuits à la belle étoile. Vers Paz, vous avez suivi, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé, et presque là où les gens ont construit anarchiquement, là je parle de sur avenue Ruzizi 3, Ruzizi 2, Ruzizi et les anciens combattants. Il y a eu des inondations route et au niveau des Mukukwe, il y a eu beaucoup de inondations et nous avons perdu plusieurs matériels Il y a beaucoup de conséquences, il y a des documents que nous avons perdus. Et mais je ne sais pas si, Expedi, je peux d'abord présenter un peu trois petits éclaircissements. Je voudrais dire que c'est la nature qui est en colère, qui est en train de se venger farouchement et vraiment nous ça laisse à désirer. Et la population a choisi presque de demeurer dans les vices pour être contrôlée par les vices. Les déchets qui sont jetés en désordre et en pêle-mêle nous causent des dégâts. Les gens jettent partout les déchets et construisent sur les lieux des eaux qui bloquent l'évacuation des eaux qui circulent. Et aussi, il y a l'évacuation des déchets, les ordures, même les puits, les sols de terrassement et les matériaux sur les constructions, sur la chaussée et sur la canalisation. Voilà un peu, ça fait du mal, mon frère Expedi. En tout cas, ça laisse à désirer quand je vois les comportements de la population. Espérons que vous allez encore me donner la parole pour faire la suite.
Zozo Sakali, vous également comme acteur social, quel constat avez-vous effectué? Quelle évaluation avez-vous menée sur le terrain après la tombée des pluies?
Il faut rappeler au fait que tout a commencé le 14, en fait, l'avant-midi du 14 novembre 2024. C'était aux environs de 11h où en fait, on a été alerté par les acteurs en fait, sociaux qui sont à la base, notamment les acteurs de la société civile, les comités locaux de développement dans différents quartiers, dans différentes avenues, sur ce qui s'était passé d'abord au niveau de la place de l'Indépendance, appelée communément place du 24, et où une dame... Et là, nous disons encore une fois, nos condoléances à la famille de notre frère Eustache, qui a perdu son épouse et ces jours-là. Et vous venez de décrire les circonstances. Et il était dans un bus en partance du marché central de Kadutu, où il exerçait au fait ses activités quotidiennes. Et à ce niveau-là, arrivé à ce niveau-là, il y avait eu des eaux de pluie qui venaient de Gawa, au niveau de Kadutu. Et ces eaux de pluie ont fait qu'il y a eu des bis qui étaient en train de flotter au-dessus de l'eau. Et par imprudence, certains ont voulu quitter les bis. Alors des jeunes ont réussi à se sauver jusqu'à se jeter du côté de Finca. Et lorsque d'autres passants ont vu que des jeunes pouvaient se sauver, alors tout le monde a dit « Allez, sauve qui peut !» Et ils ont commencé à quitter. Et c'est comme ça qu'elle, là, il a fait un petit souci. L'habit a essayé de coller une partie au fait du véhicule, mais elle s'est retrouvée juste dans l'eau. Et c'est comme ça que nous avons perdu cette dame. Au niveau des Kanoshi, au fait, on a perdu seulement, pas seulement notre papa de 60 ans. On a eu au fait trois décès dans le quartier Kanoshi, dont un jeune. Et un papa de 60 ans qui était dans l'avenue Lugamba en train de creuser une parcelle. Et il y avait aussi un enfant, malheureusement un élève de la 4e primaire, c'est déplorable. Et au niveau de Chikera aussi, on avait perdu un enfant aussi. Et bon, au niveau de Chikera, ça s'est passé au niveau de Chikoni, mais c'est l'habitation de Chikera, même le papa qui était est mort à Kanoshe, il est résident aussi du quartier Chikera. Les quartiers au fait les plus touchés, au fait, c'est entre autres le quartier Chai. Nous sommes toujours dans la commune de Bagira. Chai a été sérieusement touché. On a eu des maisons qui étaient parties dans l'eau comme ça, même des conteneurs étaient partis en l'eau. On a perdu même des bajajs au quartier Chai. Le quartier Panzi aussi était également touché. Et il n'y a pas que ces quartiers-là, la commune de Kadutu n'a pas été épargnée comme d'habitude, le quartier Mossala, le quartier Chimpunda. Alors, tout ça, et nous disons que c'est... Heureusement, notre doyen, le papa pasteur Migabo Nyagaza, venait de dire ici par rapport à la gestion des déchets, par rapport à la gestion de l'environnement, à la gestion aussi des ressources naturelles. Mais nous, à notre niveau, nous ne sommes pas en train de parler seulement de la construction anarchique. D'ailleurs, moi, je n'aime pas qu'on parle de la construction anarchique avant de parler de la vente désordonnée des terrains et des espaces, parce que quand on parle de la construction anarchique, on a tendance à dédouaner l'État congolais pour essayer, au fait, de victimiser les victimes et essayer, au fait, de montrer que ce sont les victimes qui sont à la base de leur propre malheur. Pourtant, non, il y a des gens qui ont perçu de l'argent
pour que quelqu'un érige là où on appelle aujourd'hui site impropre. Alors, avant d'être site impropre à la construction, ça devrait d'abord être site impropre à la vente. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Alors, s'agissant des causes de ce qui s'est passé le 14 et même le 15 et même hier, en fait, tout ça, nous devons nous dire tout simplement que nous sommes en face de certains dirigeants qui ne connaissent même pas la ville qu'ils dirigent. Est-ce que vous savez que la moitié de la ville de Bukavu se situe à Kasha? Si on peut prendre la superficie seulement. Kasha, là je parle de Kasha, oui, quartier, donc Kanoche, Chikera, Mulambula, Chikonyi, Chai, Moulwa, Chiriri, et consort, et même Bolo Kasha. Donc là, vous avez la moitié de la ville. Mais sur le plan, au fait, démographique, la moitié de la ville de Bukavu se trouve à Kadutu. Et c'est normal, ça. Et seulement, vous avez deux ou trois quartiers, Mosala et Nyamugo, où vous avez tout le monde là-bas. Mais les espaces là, à Moulwa, il n'y a personne. On continue à parler des hectares. Ah, il y a un hectare, mon ville à Bukavu. Oh, ni qu'un hectare eucalyptus. Chiker. Pourquoi?
Parce que...
Ah, voilà. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Alors, donc, la solution est dans la ville de Bukavu et non ailleurs.
On n'est pas au niveau des
solutions. On n'est pas d'abord au niveau des solutions, on est au niveau des causes. Voilà. Au niveau des causes, au fait, les gens, tout le monde cherche à avoir sa petite parcelle à côté du marché. Tout le monde cherche à habiter Ndendere, quoi, chez papa Albert Migabo Nyagaza, parce qu'on sait que là, c'est le Lix, là, vous avez... Et tout le monde, vous avez les pavés, en fait, et la possibilité d'être vu par différents partenaires, notamment Fonds Social et consorts. Pourtant, si on pouvait tourner l'attention vers ce côté-là, moi je pense qu'on aurait pu éviter cette calamité. En fait, moi je suis en train toujours de dire qu'on peut éviter tout ce qui arrive comme ça, on peut éviter ça. Notamment si d'abord on développe des réflexes. Moi j'ai toujours dit, comment on peut se dire, bon, la pluie est là, je me permets de monter dans des bus, et n'importe quoi, je prends n'importe quel itinéraire, pourtant il y a la pluie, vous voyez les eaux en train d'envahir
la chaussée,
et le chauffeur prend le risque d'avancer, il avance, et il appelle les clients, et les clients aussi se permettent d'entrer. Tout ça, ce sont des problèmes, on peut éviter ça. Mais aussi, nos dirigeants peuvent nous aider à éviter ça, si au moins ils peuvent tout faire pour essayer de donner, de valoriser d'autres milliers, notamment des quartiers comme Kadjangu et Kossor dans la commune de Kadutu, Kaliba et Kossor dans la commune de Kadutu, et même à Ibanda, si on peut valoriser des quartiers comme Panzi et Kossor.
Merci beaucoup. Mais... à vous, Ozo. Nous reviendrons vers vous dans peu de temps. Daniel Mourou, là, vous faites... une spécialisation sur les questions d'environnement. Pour vous, quels sont les facteurs à la base de cet état de choses dans la ville de Bukavu?
Merci beaucoup, Expedi. Je pense que vous avez lu dans les réseaux sociaux, j'ai publié un article par rapport à ça, surtout les débordements des eaux dans la ville de Bukavu. Parce qu'il y a une question que les gens ne se posent pas souvent. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces cas lorsqu'il s'agit de la transition entre la saison sèche et la saison pluvieuse? Et parfois l'inverse, lorsqu'il y a cette transition, nous entrons dans la saison sèche, ce sont les cas d'incendie que nous subissons dans la ville de Bukavu. Il est vrai que vous voyez, dans d'autres pays, surtout les pays du Nord, les pays développés, lorsqu'il y a des questions pareilles, ce sont les scientifiques qui viennent et qui réfléchissent sur des solutions purement scientifiques. Parce que lorsqu'on invite les membres des partis politiques, parfois, il y a des sentiments dans la façon dont ces questions sont abordées. Parce que quand vous allez donner la parole à Emmanuel Moulindoua, il va accuser le régime en place. Nous avons premièrement parlé de l'exode rural. Ça, c'est une première dimension qu'il faut prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, les regards sur le plan international est tourné vers l'environnement, surtout les réchauffements climatiques, où il y a les déboisements, il y a la déforestation, parce que vous êtes sans ignorer que les arbres nous aident à retenir, à ralentir la pression des ressources des eaux. Et donc, lorsqu'il y a cette déforestation, il y a les déboisements, et donc la rapidité des coulements des eaux, mais aussi les sols qui n'arrivent plus à retenir l'eau, les arbres qui devraient en principe retenir l'eau, il y a une infiltration rapide et c'est ce qui cause les éboulements que nous subissons dans la ville de Bukavu. L'exode rural, aujourd'hui tout le monde veut avoir une maison à Bukavu. Et s'il faut faire une analyse comparative, pourquoi il n'y a pas de débordement à Mumba, il n'y a pas de débordement des eaux? À la beauté, pourquoi il n'y a pas à Fizi, pourquoi seulement à Kadutu, pourquoi seulement vers Mukukwe, pourquoi seulement vers Kaluziba, vers Chikia, et j'en passe. Et pourquoi il n'y en a pas vers Bagira Sante? Parce qu'il y a l'exode rural, tout le monde aujourd'hui veut avoir une petite parcelle, et surtout soit je quitte mon village, je quitte Kabare, je quitte Ninja, je quitte Luinja, je quitte Idu, et je dois commencer par Kambien-Aimé, je dois aller vers Chimpunda, et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Et donc, nous avons estimé aussi parmi les causes, il y a aussi la gestion des déchets. Pasteur doit, au moins il est de Mukuku, il connaît ce qui se passe même derrière les marchés de Mukuku. La population de Mukuku a pris l'initiative de réhabiliter cette route, avec des contributions des individus. Mais si vous allez derrière les marchés, il y a tout un tas de déchets. Donc même les canalisations d'eau sont bouchées là-bas aujourd'hui, sous les yeux des autorités provinciales, sous les aides des autorités de la commune de Dibanda. Et lorsqu'il y a pluie, ce sont les eaux qui débordent et les maisons qui sont aux alentours, donc juste à côté, derrière les marchés de Niawera, elles sont victimes des débordements des eaux. C'est parce que l'entité, les autorités ne veulent pas tourner les regards vers la gestion des déchets, ben, surtout beaucoup plus les déchets plastiques aujourd'hui. Moi-même, je suis à Mukuk. Et lorsqu'il pleut, même une petite pluie, à la même minute, vous sortez, ce sont les déchets, les voisins qui jettent les déchets, les immondices partout. Et parfois, on se demande qui a fait ça. Donc, juste une petite pluie. Et vous verrez ce que se passe dans nos maisons. Nous avons aussi estimé les constructions anarchiques. Il est vrai, disons, on doit les reconnaître. Surtout les sites à haut risque. Mais parfois, on parle qu'il n'y a pas de sites, des sites impropres à la construction, mais ce sont des maisons inadaptées. Parce que tous les sites, on peut les construire. Mais il s'agit de quel type de maison? Partout aujourd'hui, vous allez vers... si vous prenez la colline vers ITFM, là, c'est pas... ce sont des gens qui construisent des maisons du jour au jour. Si vous allez vers LA4, partout. Donc, les sites, ces maisons-là, qui sont construites à ces sites, à haut risque, et il n'y a pas de canalisation. Combien de gens qui construisent à Bukavu, qui mettent des canalisations d'eau? Il n'y en a pas. Les maisons sont superposées les uns sur les autres. Et tout ça, ce sont des problèmes qui, aujourd'hui, je peux dire... Les canalisations ont dépassé leur capacité de charge. Les Blancs, ils ont construit cette ville. Quelle était la projection démographique? La ville de Bukavu devrait accueillir 45 000 habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus d'un million. Mais la gouvernance en place, oui, j'ai dit, quelle est la projection, la prévention par rapport à la ville? Est-ce qu'il y a des mesures palliatives? Quand bien même il y a certaines actions, malheureusement, je vois le ministre de l'Environnement et donc le porte-parole du gouvernement, que nous voyons mais chaque samedi, dans des routes en train d'évacuer les déchets, nous voyons des petites initiatives des travaux communautaires de certains jeunes de la ville de Bukavu. Il y a certains mouvements citoyens, je vois Zozo parfois en train de sensibiliser certaines personnes. Mais est-ce que l'État comme autorité, qui a donc la loi, qui doit prévenir tout ça, est-ce qu'il y a des mesures palliatives que nous voyons que voilà, on doit élargir la ville? Deuxièmement, il faut qu'il y ait le tirage des rivières, parce que le débordement de ces rivières, voir Gawa, les rivières comme, si je suis au niveau de Ruzizi, c'est ce débordement-là aujourd'hui qui cause ce que nous subissons dans la ville de Bukavu. Est-ce qu'on doit continuer à parler? Il y a des étudiants de l'environnement qui ont rédigé des mémoires. Il y a des professeurs qui ont rédigé des articles. Moi, je suis en train de travailler sur l'analyse, la chaîne de valeur des bouteilles plastiques usagées dans la ville de Bukavu. Parce que c'est un problème sérieux aujourd'hui. Mais est-ce que ces résolutions scientifiques ont été prises et transformées en politique du gouvernement pour gérer l'entité? Parce que normalement, dans des pays évolués, c'est ce qu'on fait. On appelle les spécialistes à la matière. Moi qui fais, donc je suis dans la question de l'environnement, donc le socio-économie de l'environnement, comment est-ce qu'on peut valoriser les déchets? Comment est-ce qu'on peut valoriser les bouteilles plastiques pour en faire du business? Dès lors qu'on transforme ça au business, ça veut dire que ça va créer un deal. Et ce deal-là, c'est tout le monde qui aura. Au lieu de jeter la bouteille, la tendance sera de garder cette bouteille et aller vendre ça à ces entreprises.
Daniel Mouroula, si je vous comprends bien, trois facteurs sont à la base de la situation.
Oui, il y a l'exode rural, il y a les constructions anarchiques, mais aussi il y a la mauvaise gestion des déchets partout dans la ville de Bukavu.
Voilà. Pasteur Albert, comment avez-vous procédé pour contenir la situation?
Ah non, vous avez quand même compris que j'ai dit que la population jette tout partout, comme je l'avais déjà dit, construit sur les lieux des eaux qui bloquent les eaux à circuler, et aussi ils évacuent les déchets, des ordures, les puits, des perdis, le sol, des terrassements dans les canalisations. Et aussi, cette population construit aussi là où les Blancs a jugé en droit dangereux avec un sol qui se désagrège très facilement et le terrain est beaucoup accidenté. Bref, j'avais encore rappelé que nous avons quitté le village, mais malheureusement le village ne nous a pas quittés. Comme venait de le dire mon bien-aimé Emmanuel, merci pour Daniel sur son exposition, il a exposé. Moi je pense que, et d'ailleurs il y a les études qui ont déjà montré que qui nous ont déjà averti et ont montré, d'ailleurs en date du mercredi 27 septembre et jusqu'au jeudi 28 septembre, nous avons été invités au niveau de l'ITEA où on avait fait une étude, on a montré que vraiment on a averti la population de Bukavu comme quoi il y avait déjà un danger parce que nous produisons des déchets à un total de 897 tonnes, mais ces déchets-là sont expulsés, sont exploités ou encore évacués à 10% seulement de ces déchets sont dans la rue, sont restent encore dans la population. Alors ce sont ces déchets-là qu'on jette dans les canalisations, qu'on jette sur les lacs, qu'on jette partout et c'est là en désordre. Je me rappelle même qu'il y a aussi l'agence météorologique et des détections au niveau de ce que nous appelons Metelsat, hein, qui avait déjà fait une exposition aussi à montrer qu'il y a une précipitation qui est en train de se faire et la population devrait éviter à jeter les déchets en désordre. Vous m'avez demandé qu'est-ce que nous préconisons, qu'est-ce que nous...
Mais comment vous avez, dans un premier temps, comment vous avez géré la situation? Comment vous avez géré la catastrophe quand elle s'est présentée?
Les autres quartiers, gérer, ce n'est pas facile comme vous pouvez le dire, mais de toute façon, ce que nous avons toujours fait, nous sensibilisons la population à s'abonner à des associations de ramassage et aussi nous avons toujours demandé vous voyez que nous n'avons pas les mesures nous n'avons pas la police pour mettre la main. Moi je pense qu'il faudrait mettre la main sur les agents civiques environnementaux pour qu'ils puissent arrêter à jeter en désordre les déchets partout où ils veulent et aussi construire à des endroits impropres à la construction. Vous allez vous rappeler, mon papa Zozo a parlé de ces gens-là qui donnent, qui octroient les documents, qui se sonnent les terrains dans la ville de Bukavu, et ça laisse à désirer franchement. Vous voyez, nous avons déjà perdu plusieurs personnes sur la colline Ruzizi 3, Ruzizi 2, et anciens combattants premiers 2 et 3. Mais malheureusement, si vous y passez aujourd'hui, vous allez rencontrer les terrains qui sont en train d'être terrassés. Mais je vous dis, depuis 2010, nous sommes déjà aux 56e personnes qui sont décédées déjà sur cette colline-là. Mais vous y arrivez, vous rencontrez que ces gens-là, il y a des gens qui construisent encore une fois. Et la fois passée, le maire m'avait appelé, suis parti voir la situation. J'ai suspendu les travaux, mais de mon retour, ils ont encore recommencé. J'ai envoyé le chef d'avenue qui est parti voir ce qui se passe. Et il y a un papa qui est venu, les gens ont montré que vraiment ils ne sont pas inquiets. Après il y a quelqu'un qui a dit à ce chef d'avenue, unaona, ingie mwaile nyumba pale. Benye bako banapana madokima ya hapo, kwenye bako banetelase banayikala pale. Vous comprenez ce que ça donne? Moi je pense qu'il faudrait, il faudrait une synergie pour arrêter ces sales zones qui est en train de se passer dans cette ville. Nous, nous pouvons voir de près les conséquences, mais de toute façon, il y a les gens qui s'enrichissent au dos de tout ce qui est en train de se passer dans cette ville de Bukavu. Raison pour laquelle moi, je pouvais proposer qu'il y ait des actions croisées et bien planifiées, musclées pour décourager les inciviques environnementales, comme je l'avais déjà dit. Et aussi, même il faudrait que la gouvernance, parler beaucoup de la gouvernance environnementale. Des fois, on parle de la gouvernance sanitaire, on parle de la gouvernance locale, on parle beaucoup de la gouvernance, mais on ne parle pas beaucoup de la gouvernance environnementale, et ça laisse à désirer. Nous devons envisager aussi des mesures importantes, interpellatrices, permanentes, sanitaires, pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Sinon, les gens vont se retrouver. Certains vont se retrouver dans les lacs, les autres dans les rivières, Ruzizi, et les autres seront engloutis par le sol et leurs maisons.
Merci beaucoup, Zozo. Vous avez évoqué un aspect fondamental la responsabilité des autorités, mais il y a également une autre facette, disons une autre paire de manches, la responsabilité des habitants du Sud Kivu qui construisent sur des sites inappropriés. C'est eux qui, ou disons ce nous qui jettons les déchets un peu partout. Il y a un certain terroristes ou en civique environnementaux qui se permettent à chaque tombée des pluies d'évacuer leurs poubelles en jetant les déchets dans les voies d'évacuation des eaux. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur social pour sensibiliser les habitants à faire preuve de civisme en construisant sur des endroits appropriés ou en gérant de bonne façon les déchets? Surtout les déchets plastiques.
Nous, on se limite à quatre choses, quatre éléments essentiels. Primo, c'est d'abord, on se limite aux alertes, à la sensibilisation, à la documentation, mais aussi essayer, n'est-ce pas, de faire pression sur les dirigeants pour que, en fait, solutions soient trouvées et que ce soit des solutions rassurantes, des solutions durables. Mais quand on parle de la construction anarchique, c'est-à-dire on n'est pas en train de vouloir chercher une solution. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient, il achète, mais par après vous lui dites, non, vous avez construit sur un site impropre. Mais la personne qui a vendu, vous n'avez pas vendu un site impropre. Non, non, l'argent est propre, le site est propre lorsqu'il faut vendre. Et ça, c'est déjà un problème sérieux. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, au fait, d'une superficie de 60 km², la ville de Bukavu, parce que nous connaissons que c'est 60 km², tout le monde connaît, a évolué assez rapidement sur les points de la densité. Et c'est là où je suis d'accord avec les analyses de mon aîné Daniel et même de mon papa Albert Migabo-Nyangaza. Il dit ici, au fait, ils ont touché sur trois points essentiels. La gestion des déchets, la mauvaise gestion des déchets. D'aider, au fait, ils ont touché la partie démographique où on parle, au fait, de cette problématique-là. Mais aussi, il faut rappeler ici que la planification urbanistique n'a pas suivi l'évolution démographique. Et c'est là le problème. C'est pourquoi ici on veut vous citer Mouhumba comme bel exemple. Mais moi je dis non. Je dis non. Est-ce que vous avez déjà, un jour, vous êtes journaliste et pas n'importe lequel, un journaliste d'investigation, donnez-moi un seul cas, dans 5 ans ici, où vous avez enregistré des incendies dans les quartiers Moulois? Zéro. Où vous avez enregistré des éboulements dans les quartiers Moulois? Zéro. Et même dans les quartiers Tchikera. Mais quand on veut, faire croire aux gens que la ville de Bukavu se limite à Mouhumba. Donc vous prenez l'avenue Patrice Emery Lumumba. Parce qu'en fait, la ville de Bukavu, dans la ville de Bukavu, vous avez seulement deux avenues qui traversent plusieurs quartiers, notamment l'avenue Patrice Emery Lumumba qui se retrouve à Ndendere et à Nyalukemba, et l'avenue Michombero qui se retrouve et à Kadutu et à Bagira. Et là, on veut faire croire aux gens qu'il s'agit là de la ville de Bukavu. Donc on est à la place de l'indépendance, Feu Rouge, on monte. Place Moulamba, Njoville à Bukavu ne chia pas. Non, ce n'est pas ça. La ville de Bukavu, c'est aussi Tibera. La ville de Bukavu, c'est aussi Nkafu. La ville de Bukavu, c'est aussi Nyakaliba. La ville de Bukavu, c'est aussi Moulwa. La ville de Bukavu, c'est aussi Chiriri, c'est aussi Kajangu. Tout ça. Et quand on vous dit ici, c'est non, c'est la ville de Bukavu a été conçue pour 45 000 habitants. Papa Daniel, là, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai eu la chance de visiter la ville et la capitale du Ghana, Accra, en 2016. Accra, c'est seulement 75 km². Nous, c'est à ville de Bukavu, c'est 60 km². Mais à Accra, vous avez, là, c'était en 2016, quand nous, on était à Accra, vous avez 9 millions d'habitants. Mais vous avez des immeubles. Parlez même à Arusha, ici, en Tanzanie. Vous allez vous rendre compte que, non, 45 000 habitants, c'est une avenue. Ce n'est pas la ville. Jamais, même à Liège, en Belgique, ce n'est pas ça. Donc, c'est à notre niveau d'essayer de valoriser tout ça. Et quand nous parlons ici de la gestion des déchets comme problématique, ça c'est très sérieux. Et la question soulevée par vous, Expedi, comme quoi, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se limiter seulement à la sensibilisation. Il nous arrive aussi au fait de tout faire pour toucher, et au fait, faire les travaux communautaires et amener les gens aussi à participer aux travaux communautaires. C'est ici, au fait, l'occasion pour moi de saluer certains. On a dit que c'est une question qui ne devrait pas concerner les partis politiques, mais non. En fait, moi, j'ai vu des partis politiques participer au Salongo, notamment les samedis, dans la,
les avenues, Michombero, les avenues Chibera, le quartier Kafou, Nyakaliba, je les ai vus à Essence Panzi, Major Vangu. On a vu des partis politiques, je ne voudrais pas les citer ici, même s'il faut les citer parce que c'est, au fait, c'est un point positif. J'ai vu l'AFDC, j'ai vu ANC, le Quartier Climat, j'ai vu les partis politiques FPN, et d'autres partis politiques, en tout cas, aujourd'hui, bon, vous avez aussi d'autres partis politiques qui ne se limitent que à sensibiliser sur les changements de la constitution et qu'on sort très politique, mais participer aux travaux communautaires, là on sent qu'ils ne sont pas là avec nous. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance, il faut le dire, c'est pas seulement parce qu'il est là, il faut le dire, nous avons la chance d'avoir un ministre jeune qui gère la question de l'environnement, et c'est toute la toute première fois qu'on voit un ministre provincial sur terrain avec nous, en train au fait de sensibiliser, en train de conscientiser, pas seulement se limiter à sensibiliser, mais aussi à travailler avec Béchamé, Piochamé, comme nous tous, pour essayer d'évacuer. Et déjà, à partir de ces gestes, tout le monde comprend. Une question. Moi, tu as dit que tu as dit que tu as dit. En tout cas, on sent que c'est déjà très sérieux. Et comme c'est sérieux, nous devons prendre cette question au sérieux. Parce que la ville et même notre avenir en dépend. Qu'est-ce que tu as dit que tu as dit? Et ça ne sera pas, au fait, une chose facile pour nous tous.
Vous, nous annonçons l'arrivée du ministre de l'Environnement, M. Didier Kabi, qui s'est fait violence pour justement venir participer à cette émission à la dernière minute. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher Expédie. Bonjour, les co-débatteurs. Bonjour la population de cette Kivu qui nous suit à Saint-Net-Mouma.
Merci donc de nous honorer en participant à cette discussion. Zozo, vous aviez évoqué le rôle des partis politiques qui doivent intervenir également dans les questions d'intérêt communautaire comme la question sous examen en ce moment, les questions d'environnement, au lieu de se focaliser essentiellement sur les questions purement politiques ou, disons, les initiatives tendant à vouloir compétir pour le pouvoir. Emmanuel Moulindo, vous êtes du PPRD. Quelle est votre vue par rapport à cette question dans la ville de Bukavu? Un bref commentaire.
Merci beaucoup, monsieur Expédie. Je parle plus comme Corep ici, parce que nous, au Corep, on a parlé de cette situation. Et si vous regardez
parlons
même
Corep,
ma
page... Parlons du Corep pour ceux qui ne maîtrisent pas...
Le Corep, c'est une plateforme de gens qui viennent de partis de l'opposition et qui ont une vision sur la gouvernance, n'est-ce pas? C'est donc les communicateurs républicains.
Merci beaucoup.
Et moi, je suis membre de cette structure là-bas, venant du PPRD.
Voilà.
Et que donc, nous au Corep, on a parlé, n'est-ce pas, de cette situation. Et que quand je suis vu papa
Albert
Nyagaza, il a parlé d'une chose très importante, la synergie gouvernementale. Pour gérer des choses, il faut une synergie. Et que je peux poser à papa Migabo Nyagaza une petite question. Depuis quand il a été invité par les gouverneurs, par le ministre de l'Environnement ici présent, par les maires de la ville, par les bourgmestres, ensemble pour voir comment gérer cette question de l'environnement qui est une question cruciale. Savez-vous, messieurs les journalistes, pendant la saison sèche, nous avons vu et nous avons alerté des personnes payées par les fonds sociaux, ramasser des immondistes dans des caniveaux et les entreposer à côté de ces mêmes caniveaux. Et que donc, après la pluie, ces immondistes ramassés sont revenus dans les caniveaux et quand les pluies tombent, malheureusement, ça déborde. Ça va dans des maisons et l'on pleure. On pleure parce qu'il n'y a pas eu une synergie, n'est-ce pas, de gestion. Comment sont gérés les chefs d'avenir, les Nyumbakumi? Parce que nous sommes d'accord que beaucoup de ces déchets qui détruisent, n'est-ce pas, notre ville viennent des ménages. Mais quand les Nyumbakumi ne se sentent pas impliqués,
Quand le chef d'avenir, Emigabo, vous a dit, nous nous arrêtons à la sensibilisation. Nous n'avons pas de moyens de contraindre les gens. Et c'est vrai. Parce que et la police ne reconnaît pas Emigabo comme autorité. Parce que l'autorité, la seule autorité reconnue, c'est le gouverneur, le maire de la ville, moins encore même le bourgmestre. Et que donc, si ces gens ne sont pas en synergie, pour dire, travaillons ensemble. Et que quand on touche un chef d'avenir, un Nyumbakumi, c'est le gouverneur qui est touché. Mais si le Nyumbakumi n'a pas le moyen de voir le gouverneur, de voir le ministre de l'Environnement, de voir les bourgmestres, comment voulez-vous qu'il se sente impliqué dans cette chose? Voilà la difficulté. Notre ami a dit la politique, les politiques chercheront à charger les autres. Non, nous parlons des choses qui touchent la vie du citoyen congolais. Et je vous dis, Expédie, ce n'est pas qu'on est en train d'inventer la roue, puisque comme peu perdant maintenant, je reviens, nous avons gouverné. Et nous avions, à mon temps, j'étais avec un gouverneur qui s'approchait, Nyamigabo et témoin, de ce concitoyen à la base. Il savait, Marcel Tshishambo à son temps, que gouverner, c'est impliquer aussi les Nyumbakumi. Et que lui n'est pas gouverneur si les Nyumbakumi n'est pas respecté. Où est partie cette vision aujourd'hui de la gouvernance? Pourquoi nous devons nous entêter à rester au sommet? Parce que, je m'arrête par là, les déchets produits au niveau du marché de Nyawera ici, vous les voyez éparpillés sur la route. Parce que, au lieu que j'avais dit en un certain moment au maire de la ville, au lieu d'envoyer les policiers, traquer les mamas, les tabasser avec des matraques. Un jour, faites-vous violence. Vous venez avec votre véhicule, vous vous arrêtez là. Vous appelez toutes ces mamans. Vous dites, c'est moi le maire de la ville si vous ne me connaissez pas. C'est moi votre maire de la ville. Et je vous dis aujourd'hui, comme maire de la ville, cette femme qui pense qu'elle est plus supérieure que tout le monde, si demain je la rencontre, tout au long de la route ici, vous verrez qu'est-ce que l'autorité. Et vous rentrez. J'ai dit au maire, deux jours après, rentrez, vous ne verrez aucune maman là-bas. Mais c'est devenu comme un jeu de cache-cache, souris, chat, et les policiers qui courent, qui prend des poissons, qui prend des légumes. Quand vous y arrivez, il y aura même des accidents. Parce que ces mamans courent et les véhicules passent. Je me dis, c'est quoi ça?
Voilà.
Et que donc, Emmanuel, il n'y a pas. Emmanuel, et je m'arrête là.
Si je vous ai bien compris,
oui.
Il faut qu'on dote les autorités à la base, disons les chefs de quartier.
Il faut qu'il y ait cette synergie de gouvernance.
Sont, les chefs d'avenue, les Nyumbakumi, qu'on leur dote d'abord.
Qu'on les fasse respecter.
Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait une synergie, que cette question environnementale implique tant le gouverneur,
le maire de la ville, le ministre, jusqu'aux petits citoyens là-bas.
Jusqu'aux petits des autorités à la base. Merci beaucoup pour cette contribution. Augustin Moudekereza, oui. Également, quelle est votre analyse par rapport à la question?
D'abord, merci pour l'intérêt que vous avez attaché à cette thématique. Je dois rappeler d'emblée que c'est un débat républicain, c'est pas un débat de parti politique ou essayer de faire un effort de politiser les débats. Et à ce titre-là, je voulais saluer la pertinente analyse de Daniel qui a essayé de circonscrire très correctement les causes. Et je suis très d'avis que une question comme celle-ci doit requérir l'expertise de spécialistes. Et c'est à ce titre-là que je dis qu'il y a des études qui ont été faites dans la ville de Bukavu. Je dois, entre autres, je rappelle l'étude qui a été menée par les centres de recherche en Gaza Institute de l'ISDR Bukavu sur les dynamiques urbaines. On a interrogé presque tous les systèmes et les secteurs de la ville de Bukavu. Et on note qu'il y a une certaine évolution de choses qui échappe aux autorités. Je prends un exemple. Lorsqu'on a analysé l'insécurité dans la ville de Bukavu, on s'est rendu compte que la conception de l'insécurité a évolué. Ce n'est plus insécurité parce que quelqu'un est porteur d'armes ici, l'insécurité au sens classique. Mais on arrive dans un quartier, on pose la question. Pour vous, qu'est-ce qui constitue l'insécurité? Les gens vous diront, ce sont les éboulements, ce sont les incendies, ce sont ceci, c'est le manque d'eau, ainsi de suite. Voyez un peu. Et à cet effet-là, nous pensons qu'il est nécessaire que les autorités s'approprient cette nouvelle donne. Vous savez qu'il y a beaucoup de fonds qui sont décaissés, qu'on appelle généralement fonds secrets de recherche. On dit que c'est pour la sécurité, n'est-ce pas? Alors, il faut maintenant éjecter ça. Tenir compte dans la gestion de ces fonds, il faut tenir compte de cette nouvelle évolution de la conception de l'insécurité. Parce que c'est finalement les incendies, les migaisies, je ne sais pas. Et donc, c'est à ce niveau que j'ai dit, les deux saisons, ici à Bukavu, sont devenues problématiques. La saison sèche vient avec tout ce qu'il y a avec incendie. La saison de pluie avec les éboulements. Et ça nous impose une réflexion très approfondie qui va nous aider à définir la politique de prévention et de gestion des catastrophes. Dans les temps, à l'époque des Tshambou, j'espère, il y avait déjà une réflexion qui émergeait où il fallait concevoir un plan de contingence multirisque.
Oui.
C'est à cette époque qu'on avait créé la protection civile.
Ouais.
À son temps, nous étions à la Croix-Rouge de la RDC. On avait participé à la réflexion. Et je crois que ces besoins persistent encore. Il faut que les gens qui réfléchissent. C'est à ce niveau-là que je dis, la définition maintenant, finalement, la définition de la politique de prévention et gestion des catastrophes nous impose trois plans. Les plans, par exemple, les plans institutionnels. Comment fonctionnent les services de gestion des catastrophes, la protection civile? Il faut qu'on questionne son fonctionnement et voir comment finalement on peut, que ce ne soit pas un service de bureau, mais que ce soit un service qu'on peut déployer dans les entités et qui est des brigades.
Aujourd'hui, c'est un service peut-être qui n'existe que de nom, qui est dépourvu des moyens de sa politique.
Non, peut-être, mais peut-être parce que la réflexion n'est pas soutenue.
Ouais.
Alors, je pense qu'il faut aussi un cadre législatif qui aide également qui essaie de réglementer la gestion de risques. Je pense également au plan opérationnel. En fait, c'est là que je parlais du plan de gestion des risques, les plans de contingence multirisque. Qu'est-ce qu'un plan de contingence? ANEF, c'est déjà un document qui prévoit, qui identifie les points chauds et les éventuels risques. Nous connaissons déjà les risques récurrents, les éboulements, les incendies. On doit finalement savoir pour tel risque, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme ressources et à quel moment activer le plan. C'est ainsi que je dois dire qu'il y a ce qui nous manque dans la question de gestion des eaux. Des eaux, comme on venait encore de déplorer la mort de notre compatriote. En fait, il y a ce qu'on appelle dans la gestion des risques la communication ou l'information comme modalité d'assistance. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place un système d'alerte? On peut monter des sirènes, par exemple, et lorsqu'il pleut, on peut les activer et combattre finalement les chemins qui mènent vers Kadutu. On met les feux rouges, on dit qu'il ne faut plus passer de l'autre côté. Ça peut nous aider. Là, vous assistez la population à leur offrant une information. Ça s'est fait dans d'autres pays. Je pense qu'il est possible que ça se fasse ici au Congo aussi. Alors donc, c'est à ce titre-là que j'ai dit que nous ne devons pas politiser ces débats, mais je dois rappeler en effet que il y a le gouverneur Jean-Jacques Purusi avec effectivement le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. Ce sont eux qui s'investissent évidemment pour un éveil de conscience dans le cadre de Salongo, qui viennent également appuyer les efforts de la mairie. Est-ce qu'on peut dissocier ces deux hommes d'État et commencer à les coller à leur parti politique? Je ne pense pas.
Merci.
Je ne pense pas que pour gérer la question de l'environnement, j'avais un petit élément à ajouter, expédié, excusez. Vous savez que, je pense que Daniel sera d'accord avec moi, dans les analyses par rapport à la question des déchets, la pollution, il y a des projections que les scientifiques sont en train de faire. Pour dire que demain, les guerres entre les nations, ce ne sera pas causé pour la recherche des ressources, mais pour la question des pollutions. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, nous faisons face à l'agression du Rwanda et d'autres pays voisins, par exemple, qui ont comme prétexte qu'il y a des FDLR. Demain, avec l'évolution et avec les projections que les scientifiques sont en train de faire, ils risquent de venir nous combattre pour dire « Vous avez pollué
notre... » C'est déjà fait, si vous le savez.
Voyez un peu.
Les Rwandais nous avaient instaurés en justice.
Vous voyez un peu. Donc, nous devons mener ce débat en les dépassionnant, bien évidemment.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Ouais. Mugisho Zialiroi Joseph, coordonnateur, je rappelle, vous êtes coordonnateur de la cellule de communication à la mairie de Bukavu. Bonjour et bienvenue à vous.
Merci beaucoup, Expedi, pour nous avoir associés à ce débat.
Mugisho Zialiroi Joseph, dans un premier temps, qu'est-ce qui a été fait par la mairie pour prévenir ces catastrophes?
Merci beaucoup pour la question. Vous êtes dans la ville de Bukavu comme moi et vous connaissez la ville de Bukavu avant moi. Le problème n'est pas de l'autorité urbaine qui est le maire actuel parce que il est venu quand il y a des maires qui sont passés par cette institution. Le grand problème de la ville de Bukavu, parce que chacun va analyser de sa manière, mais nous devons dire à nos auditeurs qui sont en train de nous suivre la réalité des choses pour corriger, s'il y a encore à corriger. Le grand problème que nous avons dans la ville, depuis Belge, la capacité de la population qu'on s'attendait pour la ville de Bukavu n'est plus la même population que nous avons pour aujourd'hui.
Daniel l'a évoqué tantôt.
Le deuxième problème, nos services d'urbanisme et habitat ont mal géré les entités pour construire. La parcelle de 5 sur 5, on est en train de construire. C'est un problème pour une ville. Et ils ont les documents, même si vous êtes maire, vous n'allez pas vous réveiller pour aller démolir ça. C'est parmi les problèmes. Notre population aussi, pour leur niveau de gestion des déchets. Nous avons une population adaptée pour la ville et une population non adaptée. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a quelqu'un qui vient franchement au village, il connaît qu'on jette pêle-mêle des immondices, il vient avec même esprit dans la ville, croyant que ça va se faire. Or, c'est faux. Nous avons des associations qui passent dans des ménages pour récolter, pour prendre des immondices. La plupart des ménages ne sont pas abonnés. Et ceux-là qui ne sont pas abonnés jettent leurs immondices dans des caniveaux. Quand il y a pluie, il y a inondation et c'est la même population qui est victime. Il y en a nos mamans qui viennent dans des périphéries de la ville de Bukavu avec des légumes, avec beaucoup, je dirais, de déchets. Après avoir fini leur commerce, ils partent, ils laissent leurs immondices dans des caniveaux, dans des routes. Et même la mairie a fait la politique de mettre des poubelles publiques. Nous sommes tous étonnés de voir que ce sont les déchets de ménage qu'on est en train d'y mettre. C'est parmi des problèmes, même au niveau des avenues, comme on l'a évoqué, les chefs d'avenue ne sont pas bien encadrés. Il y en a ceux qui ont pris les avenues comme leurs activités commerciales. Ils vendent des servitudes pour que même quelqu'un mort dans sa maison, c'est difficile à faire passer le cercueil pour aller l'enterrer. c'est parmi les problèmes que nous sommes en train de nous heurter dans la ville de Bukavu.
Joseph, connaissant que tous ces problèmes sont connus, qu'est-ce que la mairie de Bukavu a fait pour éviter qu'il y ait dommage?
Bon, je suis heureux d'être avec le ministre provincial dans ce studio, parce qu'à ce niveau, ils peuvent au moins aller au-delà de là où la mairie peut aller.
Non, je commence par la mairie. C'est pourquoi je vous ai donné parole en premier lieu, pour nous dire ce qui est fait d'abord par l'hôtel de ville, en attendant de projeter les actions initiées par le ministère.
Vous m'aviez accordé la parole.
Justement.
Nous, comme mairie, la ville est saturée. Nous demandons à la haute hiérarchie d'épanouir la ville, parce que si on avait la route Bukavu-Nyangezi, il y a déjà qui pourrait y être, et que peut-être il y ait un ministère provincial qui est basé au niveau de Nyangezi. Ces agents peut-être peuvent y être pour ne pas venir en retard pour le boulot.
C'est bien noté.
La route place de l'indépendance, oui, la route place de l'indépendance Kavumu. On y met par exemple un ministère d'agriculture, parce qu'il y a l'endroit où on peut cultiver. Je pense qu'il y a les gens qui peuvent y être, et la ville de Bukavu va un peu respirer. Si la route est place de l'indépendance Walungu vers Mwenga, je m'en excuse, serait bien asphalté. Nous devons avoir les gens qui vont rentrer facilement dans leurs entités pour que la ville de Bukavu ait au moins l'espace.
Joseph,
les
mains question
de la ville actuelle, avec l'espace que nous avons dans la ville de Bukavu. La radio Maendeleo est suivie. Je risque d'être en conflit avec la population pour les tromper qu'il y a l'espace où nous allons les mettre. Parce que nous avons des problèmes. On ne doit pas construire à 10 mètres de rive de notre lac ici.
Joseph,
vous voyez la population en train de vouloir construire même dans les lacs.
Permettez, Joseph, la question de la construction sur des sites impropres, c'est un des facteurs. Ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs qui ont été évoqués, notamment la gestion des déchets. Qu'est-ce que la mairie de Bukavu est en train de faire pour amener la population à bien gérer ou à bien canaliser les déchets issus de ménages? C'est là que repose ma question.
Au niveau de la mairie de Bukavu, on avait un arrêté qui fixait des zonages, mais à un niveau, nous nous sommes rencontrés qu'il y a des personnes qui gèrent mal les entités où ils sont basés. La politique de la mairie, en connivence avec le ministère de l'Environnement, nous avions adapté cet arrêté à un autre pour que nous puissions faire participer tout le monde. La concurrence des marchés, et là nous avons d'autres partenaires qui sont en train de venir, parce qu'au niveau de la mairie, nous avons un problème, on peut évacuer des déchets. Mais nous avons un problème de traitement de ces déchets. Et c'est là que nous sommes en train de demander des partenaires de venir pour que ces déchets évacués puissent être traités, recyclés, et ça peut aider à ce qu'on puisse avoir des pavés, on puisse avoir des assiettes plastiques, on puisse avoir de l'engrais. Oui, il y en a des bouteilles qu'on peut transformer pour avoir ça. Peut-être mon ami a oublié parce que 18 ans au pouvoir, ce n'est pas facile. Alors, et ça doit nous aider même à trouver l'engrais pour nous aider même à cultiver.
Merci, Joseph.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire que la mairie négocie des partenariats avec des privés pour tous ensemble créer cette dynamique-là.
Oui, et hier, on était avec l'association Ravi qui nous a rassurés qu'ils ont des outils qu'ils vont utiliser pour faire des traitements de ces déchets, et ça va même faciliter à beaucoup de nos jeunes d'avoir de l'emploi.
À tout seigneur, tout honneur, place maintenant au propos du ministre de l'Environnement, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Monsieur le ministre, la tendance à Bukavu, c'est de penser que c'est l'Éternel qui s'est fâché contre nous, l'Éternel nous a relâchés en nous amenant les catastrophes, mais en réalité, il faut dire que la situation telle qu'elle est en train de se vivre ici ne concerne seulement pas la ville de Bukavu, la province du Sud Kivu. Les catastrophes, il y en a à Kinshasa et même dans les nations les plus civilisées aux États-Unis. Il y a eu l'ouragan Helene qui a frappé les États-Unis, je crois, en octobre, faisant plus de 200 morts. Mais le grand souci, ça reste comme Augustin l'a dit, la gestion de ces catastrophes, est-ce que à ce jour, la province du Sud-Kivu, avant qu'on ne parle des initiatives que vous entreprenez, dispose d'un plan de contingence, un plan qui est mis sur pied pour gérer les différentes catastrophes comme on en a connu le long de la semaine?
Merci de m'accorder la parole, Monsieur Expedi. Je venais de suivre intégralement les analyses que viennent de faire les uns et les autres parmi les co-débatteurs ici. Et je remercie l'intérêt que vous avez accordé à cette question et entrée à l'assainissement de la ville de Bukavu. Est-ce que la province du Sud-Kivu a un plan de contingence pour gérer les catastrophes? C'est ça la question.
Justement.
Je vais commencer par dire que aujourd'hui, nous faisons face à des situations qui font en sorte que dans le monde entier, je ne vais pas parler du seul pays, la RDC, mais dans le monde entier aujourd'hui, les catastrophes.
Nos excuses pour la coupure d'électricité. Désormais sous groupe, nous revenons pour la suite de cette émission Paix Développement de ce dimanche 17 novembre 2024. Qu'il vous plaise, Monsieur le Ministre, de revenir sur votre intervention. Vous étiez disant que nous avons été prévenus tantôt qu'il y aurait des fortes précipitations.
Merci bien. Donc, je disais que nous faisons face à une période où les aléas du réchauffement climatique sont actuellement la conséquence de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et il va falloir que chaque peuple, chaque pays, chaque entité puisse prévenir les dangers. Et pour qu'on les prévienne, je veux dire que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, depuis son avènement à la tête de la province du Sud-Kivu, a déjà mené suffisamment de contacts. D'ailleurs, les derniers, c'est quand il fut en Belgique, il a rencontré une organisation allemande qui va venir s'installer ici pour appuyer les efforts du gouvernement provincial dans le sens de voir dans quelle mesure on peut mettre en place une équipe de surveillance devant aider à prévenir les risques par rapport à toutes ces catastrophes. Ça, c'est une précision que je voudrais donner. C'est pour ainsi dire que ces catastrophes, comme c'est déjà annoncé, il va falloir que les dirigeants, chacun à son niveau, de prendre des mesures lui permettant de prévenir sa population. Nous sommes en train de vivre des situations au sud qui vous allant jusqu'à perdre de vies humaines. Mais à un certain niveau, il y a des analystes qui pointent directement du doigt les dirigeants. Oubliant qu'en pointant les doigts ces dirigeants, il y a d'autres doigts qui lui reviennent. Qu'est-ce que je vais dire? La responsabilité, elle devrait être partagée. Notre population doit être éduquée dans un premier temps. Cette question de gestion des déchets, c'est elle qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme problème. Pourquoi? Parce que tous les caniveaux qui nous permettaient jadis d'évacuer ces eaux et de les canaliser, ils sont bouchés. Qui les ont bouchés? C'est nous, les habitants de la ville de Bukavu. Monsieur le communicateur de la mairie est revenu sur la problématique de notre urbanisme et habitat. Certes que les problèmes sont partagés, parce que l'urbanisation de la ville de Bukavu pose actuellement problème. Et c'est comme ça que on ne sait plus gérer la politique des déchets, parce que sur, par exemple, 1000 ménages, vous ne saurez pas identifier
100 ménages qui ont prévu des espaces où ils doivent traiter localement dans son propre ménage les déchets. Parce que chacun est à la recherche d'un espace où il peut construire une nouvelle chambre parce qu'il y a encore augmentation de la densité démographique à Bukavu.
Il y a dans certaines parcelles, il n'y a même pas de l'espace pour entretenir une poubelle.
Oui, c'est ce que j'ai dit effectivement. Nous faisons face où nous vivons dans une ville qui produit en moyenne 898 tonnes de déchets. Le jour, j'ai dit. Mais vous vous imaginez, il n'existe pas de politique de gestion de ces déchets. C'est comme ça que, avec le gouverneur Pourroussi, nous avons mis en place une nouvelle politique venant appuyer les efforts du maire de la ville. Qu'est-ce que nous voulons faire effectivement? L'idée pour nous, c'est d'amener notre population à être conscientisée et à comprendre que cette question, ce n'est pas une question du seul maire de la ville. Il faut noter que nous avons 3 communes en plus de la mairie. Vous devez vous poser la question de savoir, ces communes, quel est leur rapport pour gérer les mêmes déchets qui sont produits dans leurs entités? Parce qu'il faut que la population le sache. La province, c'est une entité administrative décentralisée avec une personnalité juridique distincte de celle de l'État. Ce qui lui procure l'autonomie de gestion de ses ressources.
Tout autant pour les communes.
La mairie est une entité territoriale décentralisée qui a la même personnalité juridique et l'autonomie de gestion. Ce qui est le même cas pour les 3 autres communes. C'est-à-dire que chacun génère des ressources qui peuvent lui permettre de définir une très bonne politique pour assainir son entité. Alors cette question ne devrait pas être la question du seul maire de la ville. J'interviens actuellement en tant que ministre sectoriel dans le secteur de l'assainissement, justement pour voir dans quelle mesure nous menons en tant que nouvelle classe dirigeante, nous puissions amener notre population à comprendre effectivement que cette question nous concerne tous.
Il y a un aspect évoqué par Emmanuel Moulindo, la synergie entre autorités. Vous, comme ministre, avez-vous déjà appelé monsieur le maire et les différents bourgmestres pour
qu'on puisse réfléchir sur la question? J'ai bien dit que j'ai suivi avec attention les interventions de tous les co-débatteurs sur ce plateau.
Justement.
Emmanuel est revenu sur la question de responsabiliser les cadres de base, de gouverner avec eux. Je vais informer l'opinion que le 1er octobre de cette même année, je réunis dans la grande salle de l'hôtel Riviera les cadres de base qui sont les chefs de quartier. D'ailleurs, Albert Migabo est témoin. Il a été participant à cette réunion. Les 3 bourgmestres, tous présents dans la réunion. Le maire de la ville présent. Toutes les organisations qui s'impliquent dans la gestion des déchets dans cette ville de Bukavu. Je les ai réunis pour essayer de comprendre la politique de gestion des déchets parce que Bukavu fait la honte. Bukavu, c'est le chef lié de la province du Sud-Kivu. C'est ici que nous recevons les hôtes qui viennent, certains dans le cadre du tourisme et d'autres dans le cadre d'investir au Sud-Kivu.
Quelles sont les résolutions assorties de cette rencontre?
L'idée pour le ministre provincial en charge de l'environnement et partant du gouvernement provincial, c'était dans un premier temps de comprendre la problématique de la gestion des déchets dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est seulement Bukavu qui est sale? Ouais. Pendant que des nouvelles villes qui ont été créées récemment sont en train de prendre une vitesse de croisière dans leur manière de moderniser les infrastructures, mais aussi qui vous, nous plutôt que de progresser, nous transgressons. Alors c'est comme ça que moi personnellement j'avais pris cette initiative de poser la question à tous ceux-là qui interviennent dans la gestion des déchets. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et c'est dans cette réunion, au travers ces conclusions, que finalement, j'ai travaillé avec le maire de la ville pour qu'on supprime cette histoire des zonages. les problèmes qui s'étaient posés lorsque nous avions étudié ensemble la problématique. On s'était rendu compte que telle, c'est une organisation qui a un contrat de partenariat public-privé avec la mairie pour la gestion des déchets. Mais il a une zone X où c'est lui qui prend, qui collecte tous les déchets de cette zone.
Ouais.
Mais maintenant, celui-là, il passe quand il veut. Il estime que cette zone là-bas lui appartient désormais des droits. Et que tous les ménages qui sont dans cette zone ne peuvent plus revendiquer parce que lui a un contrat avec la mairie. Alors moi, personnellement, je me suis dit que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut qu'on puisse promouvoir la compétitivité. Qu'on fasse une concurrence, pas déloyale, mais loyale, permettant en sorte que celui qui sait très bien faire puisse gagner la confiance des ménages pour qu'ils puissent s'abonner.
Donc les ménages qui sont considérés comme clients.
Oui, oui. C'est ça maintenant le premier résultat de cette réunion.
Ok.
Et aujourd'hui, chacun de ces gens qui sont impliqués dans la gestion des déchets sait actuellement qu'il n'a plus d'espace propre à lui. Et que donc, pour qu'il puisse continuer à fidéliser ses clients, il doit leur rendre un service adéquat. Un service qui leur permet de comprendre que les 5 dollars ou les 3 dollars que je donne chaque fin du mois font vraiment, je constate qu'il y a du travail qui se fait. Alors, le fait pour, par exemple, un partenaire, et c'est là un autre problème, vous êtes impliqué dans la collecte des déchets. Mais fort malheureusement, la province du site Kivu, quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'elle n'a pas de décharge publique. C'est impensable que au 21e siècle, on puisse vivre dans une province qui produit 898 tonnes de déchets par jour, mais elle n'a aucune décharge. J'ai posé la question à certaines personnes de me dire qu'est-ce que l'on appelle décharge. Les gens me disent, mais décharge, c'est-à-dire vous me donnez l'argent, je signe. Mais vous imaginez une province au 21e siècle. Et moi, je leur dis, c'est la question sur laquelle vous devrez préalablement travailler. Nous avons connu beaucoup des dénonciations de la population de Kabare sur Moussigiko. Ils disent tous les déchets qui sont entreposés sur Moussigiko impactent négativement la santé de la population. D'autres prennent sur la route, ils collectent des déchets, ils les abandonnent sur la route. Vous qui passez par exemple par la route qui mène vers Mudaka, la route qui mène vers Walungu, celle qui mène vers Nyangezi, vous allez constater qu'il y a des déchets qui sont produits à Bukavu, mais qui ont été abandonnés sur la route. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de décharge. Alors moi, je me suis dit que ce sont là les questions préalables sur lesquelles il faut préalablement étudier. Et une fois qu'on les aura étudiées, maintenant on traite les dossiers au cas par cas.
Monsieur le ministre, dans une note circulaire signée par vous le 28 octobre dernier, je rappelle, adressée à l'intention justement des maires de Bukavu, Baraka, Kamituga, Uvira, à messieurs, mesdames, les bourgoumestres tous, les chefs des chefferies secteurs, le chef des différents quartiers de la ville de Bukavu, les cadres de base, vous aviez estimé, vous avez donné justement une mesure, vous l'avez rappelé, chaque entité, c'est-à-dire ménage ou installation classée, sans distinction aucune, est tenue de s'abonner à un service public de gestion des déchets au niveau de la ville, de la commune ou de l'entité territoriale décentralisée. Passé ce délai d'un mois, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de tous ceux qui n'auront pas respecté ces obligations. Ces ménages, il faut le rappeler, ils sont encore dans le banc. Le délai d'un mois n'est pas encore dépassé. Pour ce qui concerne l'entreposage des matériels et ou matériaux de construction sur la voie publique, vous l'avez rappelé, il est strictement interdit aux particuliers d'entreposer les matériaux ou matériels de construction sur la voie publique. Pour ce qui concerne la protection de lac Kivu et Tanganyika ainsi que la rivière Ruzizi, vous référant justement aux dispositions légales et réglementaires invoquées ci-haut, vous l'avez rappelé que toute construction le long de ces trois endroits précités doit respecter les 10 mètres de rive. Dans le même ordre d'idée, un avertissement sévère est adressé aux riverains de ces deux lacs et de la rivière Ruzizi en rapport avec la pollution de l'environnement. Concernant d'abord l'obligation qui incombe aux ménages de s'abonner aux sociétés ou entreprises d'évacuation des déchets, où est-ce qu'on est, vous en êtes avec cette mesure-là?
Je voudrais y arriver. J'étais en train de vous donner les différentes étapes qu'ont suivies
les mesures que nous avions prises au sortir de cette réunion du 1er octobre de l'année 2024.
Oui, justement.
Je dis que une des résolutions d'abord, c'est la suppression de ces zonages. La deuxième résolution, vous venez d'y revenir parce que je voulais en parler. C'est cette note circulaire que j'ai prise. Je l'ai prise justement pour interpeller la conscience des habitants de la ville de Bukavu. Il l'a dit, monsieur le communicateur de la mairie, mais je vais encore l'aider à le dire très bien, que vous venez, à cause de l'exode rural, vous quittez le village pour vous installer dans une ville. Vous devez vous adapter aux conditions exigées par les autorités urbaines pour vivre comme citadin. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas vous réveiller à 3h ou à 0h pour aller jeter les immondices dans les caniveaux à côté de chez vous parce que vous ne savez pas payer pour les mêmes immondices ou les mêmes déchets que vous-même vous produisez. Alors, pour qu'on y arrive, certes que ça ne va pas être facile, mais nous sommes en train de mettre à pied d'œuvre une brigade de surveillance environnementale. C'est cette brigade, d'ailleurs, lors de la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres au niveau provincial, son Excellence Monsieur le gouverneur de province hier est venu pour me demander de définir les conditions dans lesquelles cette brigade sera opérationnelle. Parce que c'est elle qui va nous permettre d'identifier des jeunes dynamiques dans chaque quartier, associés à monsieur le chef de quartier, à monsieur le chef d'avenir, à monsieur le Nyumbakoumi, pour nous identifier effectivement les différents ménages dans chaque avenue. Ce qui nous permet maintenant de suivre au quotidien avec ces jeunes là-bas, avec l'appui de nos chefs de quartier et les chefs d'avenir. L'idée pour nous, c'est que si la commune d'Ibanda et plus particulièrement Dendere Nyalukemba, les habitants peuvent être capables de payer la taxe d'assainissement de $5, le pouvoir d'achat pour, par exemple, ou le pouvoir économique pour ceux qui vivent dans la commune de Kadutu ou dans la commune de Bagira ne sera pas le même. Alors il faut qu'on adapte le prix auquel ces habitants vont s'adapter pour que finalement ils puissent adhérer dans les différentes organisations de collecte des déchets. C'est pourquoi, d'ailleurs, hier je suis revenu encore quand j'ai lancé le projet de collecte, d'évacuation et de transformation des déchets par cette société Rabi à laquelle monsieur le communicateur a fait allusion. L'idée pour nous, c'est d'intensifier les sensibilisations. Chacun de nous est acteur du changement. Donc il ne faut pas penser que cette affaire, c'est une affaire qui nous concerne seule. J'y reviens toujours. Pour que cette ville change, pour que la population de Bukavu change de mentalité, il va falloir que chacun de vous, lorsqu'il a un espace de pouvoir où il peut passer un message, comme les canaux de communication que Radio Mendeleo nous offre maintenant, n'hésitez pas à sensibiliser cette population à comprendre que cette question nous concerne tous. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, vous avez constaté que la question du maire de la ville pour les salons, beaucoup de personnes actuellement s'invitent à participer dans ces activités actuellement. C'est justement parce que nous-mêmes, nous sommes en train de servir d'exemple. Donc on n'est pas des dirigeants qui sont dans des bureaux tout simplement. Nous avons l'état d'être aux côtés de nos populations pour essayer de comprendre effectivement où sont les réels problèmes et quelles sont les propositions, des pistes et des solutions que nous pouvons proposer à l'autorité provinciale.
Monsieur le ministre, justement, comme vous le dites, la solution viendra de la base, c'est-à-dire à travers les ménages. Si tous les ménages sont conscientisés, c'est qu'il y aura un début de solution. D'ailleurs, la directrice de l'entreprise Plasticor, Nicole Menemene, spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques, qui proposait au gouvernement provincial et la mairie de Bukavu de subventionner les entreprises qui investissent dans la fabrication des emballages écologiques. Elle a aussi invité la mairie d'instaurer une taxe mensuelle, disons de $2, à percevoir auprès de tous les ménages, ce qui peut permettre de mobiliser plus de $600,000 pour appuyer les efforts d'évacuation des déchets. Comment vous organisez le travail de ces entreprises d'évacuation des déchets? Comment ça se passe? Quelle est l'instruction que vous leur avez donnée? Et à quel tarif ce travail sera exécuté
pour que, profitant de votre passage ici à Radio Mandela, les auditeurs ou les habitants de Bukavu comprennent la nécessité et comprennent également comment la dynamique est organisée.
Oh, je ne vais pas donner une précision directement quant à ça.
Okay.
Mais, dans un premier temps, lors de cette réunion que nous avions tenue avec toutes ces organisations qui interviennent dans la collecte des déchets, il y a eu des propositions dans le sens de faire une proposition concrète sur qu'est-ce qu'un ménage peut payer pour qu'il se sente capable de participer à l'assainissement de la ville.
Okay.
Alors, très bientôt, là, nous avons convenu avec le maire de la ville que nous allons organiser 3 descentes. Une descente à Ibanda. Nous allons organiser une première réunion avec tous les cadres de base dans la grande salle de la commune d'Ibanda, où on va parler avec et les Nyumbakumi et les chefs d'avenir et les deux chefs des quartiers, pour qu'ensemble, nous puissions maintenant réfléchir, on identifie déjà, on cartographie...
Les trois alors.
Les trois plutôt, je m'excuse. Là maintenant, on cartographie tous les acteurs qui sont impliqués dans le secteur de l'assainissement. Et c'est à ce niveau là-bas qu'on va évaluer ensemble sur le prix que nous pouvons finalement fixer pour que chaque ménage puisse s'abonner. Quand on finira par Ibanda, on fera le même exercice à Kadutu et le même exercice à Bagira. Et partout où on passera, parce que chaque autorité est compétente à son niveau, comme je l'ai dit tantôt, on va travailler avec cette autorité pour que nous puissions voir maintenant quel est le prix abordable qu'on peut proposer à nos populations.
Merci.
Voilà un peu. Mais je voudrais revenir sur...
Oui, mais je reviens vers vous. Dans peu de temps,
si vous me permettez, je voudrais revenir sur la note. Vous avez soulevé des questions importantes. Dans la note, je suis revenu sur l'interdiction d'entreposer des matériels ou de matériaux de construction sur la voie publique, sauf autorisation préalable.
Mais nous le constatons toujours, malheureusement.
Oui, c'est ça effectivement les problèmes auxquels on fait face. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'évaluer les conséquences ou les préjudices que nos routes subissent après chaque traitement de tous ces matériaux de construction pour couler les dalles dans différentes maisons, vous allez constater qu'après, sur la chaussée, il est resté un tas
de déchets
qui ont été abandonnés par cette société. Et ce sont là ces déchets qui vont maintenant...
Empiéter sur la route, oui.
Détériorer.
Ce sont maintenant ces déchets qui vont s'entreposer dans les caniveaux,
les caniveaux, ouais,
qui évacuent les eaux. Et c'est ce qui fait en sorte que finalement, nos caniveaux sont bouchés. Lorsqu'il y a maintenant la pluie, c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Vous passez sur Patrice Emery Lumumba vers Nyawera, vous passez sur Avenue Fizi. Vous vous souviendrez avec nous, lorsque Fizi n'était pas encore goudronné, c'est tout le monde qui se disait qu'elles nous foutent ces autorités, ces dirigeants. Maintenant que nous avons une route goudronnée, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de sa détérioration. Qu'est-ce que nous voulons finalement?
Merci.
C'est pour ça que nous devons interpeller nos populations. Après ça, je suis revenu sur la question des engins roulants qui sont abandonnés sur la voie publique. J'ai donné un moratoire d'un mois à dater du 28 octobre de cette année. Le 28 octobre 2024, le 28 novembre
2024.
Le gouverneur est revenu à annoncer à la population que l'INERA nous a accordé un espace où nous allons entreposer tout ce qui bloque la circulation à Bukavu et de l'autre côté où nous allons entreposer les déchets dans le cadre d'une décharge. Je commence à interpeller toutes ces personnes qui ont des enjeux et qui les ont abandonnés sur la voie publique.
Ils seront évacués.
Ils seront évacués jusqu'à l'INERA. Et pour récupérer ça, ils doivent payer des amendes. Je suis clair par rapport à ça et j'insiste.
Il y a une note du maire de la ville qui est revenue sur les amendes de 300 000 francs congolais pour tout engin qui sera retrouvé sur la chaussée. Et, c'est une note qui date du jeudi passé, le jeudi
14 novembre dernier. Monsieur le ministre, je reviens vers vous. Vous allez clôturer cette partie.
Je voudrais tout simplement maintenant conclure cette partie-là des enjeux. En concluant cette partie des enjeux, je vais dire ceci. Toutes ces personnes qui ont déduit leur garage en boutique, qu'ils commencent à résilier ces contrats et ramener leur véhicule dans leur garage. Parce que très bientôt de mesure, cette mesure ne souffrira d'aucune exception.
Merci.
Je suis clair par rapport à ça.
Merci,
et je crois que monsieur le maire est en train de nous suivre au travers son communicateur. Je vais demander l'accompagnement de vous tous en tant que des acteurs sociaux et des analystes qui comprennent qu'effectivement notre population doit être éduquée.
Merci,
parce que si on n'y arrive pas, en tout cas je veux dire que vous-même vous ne nous avez pas accompagnés.
Merci monsieur le ministre pour cette intervention. À tous les intervenants dans ce studio, 30 secondes pour les perspectives et nous allons clore cette première partie de l'émission Paix et Développement de ce jour. Daniel Mouroula, analyste indépendant, chercheur sur les questions environnementales, quelles propositions pour éviter à la ville de Bukavu et l'ensemble de la province Sud-Kivu les catastrophes comme nous le constatons aujourd'hui?
Merci beaucoup. Je pense qu'avant d'y aller, il y a le pasteur qui a parlé de la gouvernance environnementale. Là, on désigne l'ensemble des processus, des politiques, des mécanismes et des institutions pour la gestion des ressources naturelles ainsi que de l'environnement, avec 5 caractéristiques, dont la participation inclusive. Les acteurs à tous les niveaux. Nous avons l'État, nous avons les ONG, nous avons la communauté locale. Il y a la notion de la responsabilité ainsi que la transparence. Ça veut dire que dans cette notion, les responsabilités telles que le ministre l'a dit, les maires de la ville sont là, les bourgmestres des communes sont là. Nous avons les chefs de quartier, nous avons les chefs d'avenue. Il faut la conjugaison. La symbiose, la conjugaison, si nous fédérons les efforts, ça veut dire qu'on va jouer et chacun va jouer son rôle. Nous avons la notion de l'approche intégrée. La notion de l'approche intégrée, il faut tenir compte des dimensions sociales, les dimensions économiques et les dimensions environnementales dans la gestion de l'environnement. Nous avons, quatrièmement, les cadres légaux ainsi que les cadres institutionnels. D'où nous avons l'obligation. Il y a les lois qui existent. Il y a des traités qui existent. Il y a des conventions qui existent par rapport à la gestion de l'environnement. Et au second point, nous avons la gestion adaptée. Il faut des mesures flexibles. Les mesures flexibles adaptées aux innovations scientifiques. Parce qu'il y a des chercheurs. Nous avons travaillé sur la caractérisation des acteurs, ainsi que donc la cartographie et la caractérisation des acteurs qui interviennent dans les maillons des déchets à Bukavu. D'où nous avons rencontré les collecteurs. De manière générale, nous avons identifié au moins 30 collecteurs. Nous avons interrogé 70 ramasseurs. Nous avons interrogé 40 revendeurs. Nous avons interrogé les utilisateurs sporadiques, donc des communautés ou les gens qui utilisent de manière sporadique les déchets, dans le cadre peut-être des produits, les chaises plastiques. Il y a d'autres qui utilisent ça parce que j'ai même des photos. Nous avons aussi interrogé les recycleurs. C'est là où il y a un problème. À tous les niveaux, parce qu'il fallait les cartographier ainsi que les caractériser par rapport à leur manière de gérer les déchets. Les recycleurs, nous n'avons que 4, mais avec des méthodes purement traditionnelles. Et comment vous voulez qu'avec les 4 recycleurs de déchets, surtout les bouteilles plastiques, absorbent le nombre de tonnes de bouteilles plastiques gérées par jour avec des mécanismes purement traditionnels? Et voilà pourquoi je pense que les autorités au niveau provincial, vous signez des contrats avec les sociétés. Est-ce que ces sociétés sont viables? Est-ce que ces sociétés ont des enjeux? Est-ce que ces sociétés ne sont pas des sociétés qui naissent et qui n'ont pas de capitaux pour investir, parce qu'il s'agit d'investissement. C'est là où l'État devrait aussi être très mature. L'État doit être prudent par rapport à ça. Mais vous parlez même des collecteurs. Vous voyez ces jeunes aussi. Il y a aussi une dimension sanitaire. Les sociétés qui n'ont pas même des outils de protection de leurs agents. Nous les voyons passer dans la ville en train de crier parfois. Ils oublient que ça aussi c'est une nuisance sonore. Ils dérangent les gens partout. Ils jettent ces déchets partout. Et voilà la conséquence de ce que nous subissons. Nous avons dit clairement qu'aujourd'hui, les regards sur le plan international, c'est par rapport au réchauffement climatique. Et il y a des projections qui montrent par rapport à la variation de la température. Si nous allons entre 1 et donc 1,2, il y a d'abord des plantes qui ne peuvent plus pousser. Il y a des conséquences sur le plan sanitaire. Il y a des conséquences sur le plan économique. Et donc, l'ensemble de toutes ces questions, c'est là où je voudrais recommander le ministre qui est présent aussi. Quand vous organisez des assises pareilles, à l'IEA, il y a les départements de l'environnement.
le centre en Gaza que gère le professeur Emery Mudinga, il a réfléchi par rapport aux dynamiques dans le cas de gestion de la sécurité sociale, dans le cas de gestion des déchets. Il y a le département de l'environnement à l'IEA, donc à l'ISDR, Bukavu. Donc nous devons nous mettre ensemble et associer.
On doit associer
la science, la gouvernance.
Dans la gouvernance.
Dans la gouvernance. Il faut que les ministres, parfois on doit quitter ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux. Vous avez vu, j'ai publié quelque chose par rapport à cette problématique. Personne qui a réagi. Mais s'il s'agissait de parler de la Constitution, c'est Manuel Mounoula qui va réagir. S'il s'agissait de parler d'une motion contre le gouverneur ou contre les ministres, c'est tout le monde qui va agir. Pourquoi ces efforts-là? Chaque groupe WhatsApp, nous avons plus de 800. Pourquoi les 800 personnes ne peuvent pas se mettre dans des rues pour déboucher le caniveau, pour aider les ministres à évacuer les déchets? Je pense que ça, c'est une question de tout le monde. Ce n'est pas seulement une question de ceux qui nous gèrent, c'est une question des acteurs. Merci. Et il faut que les acteurs se sentent responsables.
Merci. Monsieur le chef de quartier, quel engagement prenez-vous et quelles recommandations adressez-vous aux parties prenantes?
Merci beaucoup, Expedi. Comme vous rappelez, j'avais encore, pour éviter de courir derrière les événements, derrière les défaites, derrière les insuccès, moi j'avais déjà proposé, vous vous rappellerez que j'avais encore demandé qu'il y ait un cadre permanent de réflexion de tous les acteurs impliqués dans l'assainissement. J'avais proposé que et les universitaires, et les cadres de base, au niveau du gouvernorat, au niveau de la mairie, au niveau de même au niveau de avec les investisseurs, il faudrait qu'on puisse créer un cadre permanent de réflexion pour tous les acteurs qui sont impliqués dans le ramassage des déchets. J'avais parlé aussi des actions qu'il faut mener, des actions croisées et bien planifiées. Croisées, pourquoi? Parce que moi-même j'ai constaté que la ville est en train d'être détruite parce que seulement nous travaillons. Il y a des gens qui travaillent en ordre dispersé. Nous ne travaillons pas en ordre rangé. Il y a même nos amis là de services spécialisés en matière foncière. Il y a des insatisfaits éternels en matière foncière. Et j'aurais souhaité qu'un jour, les ministres de l'infrastructure, les ministres de l'environnement, présents dans ce studio, qu'on puisse réunir, rencontrer même et les cadres de base, tous ces scientifiques-là, avec ces commissionnaires, qui distribuent le sol comme ça, et en désordre, il faudrait aussi qu'on nous amène ces services spécialisés en matière foncière. Moi, j'avais déjà insisté sur qu'on puisse parler davantage et d'une manière permanente de la gouvernance environnementale. Ils avaient engagé aussi les mesures importantes, interpellatrices et permanentes aussi, salitaires, pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Sinon, j'avais montré que la population se retrouvera dans les lacs, dans les rivières, et aussi les autres seront engloutis par le sol qu'ils sont en train de creuser, et aussi par le sol, même par leur maison.
Merci, monsieur le chef, pour cette participation. Jojo, également, perspective, qu'est-ce que vous proposez? Ne vous limitez pas sur les dimensions essentiellement d'ordre de gestion des déchets. Proposez également des perspectives, notamment sur la question du territoire, parce que nous y avions fait allusion en parlant des constructions sur des sites inadaptés. Quelles propositions vous formulez?
Dans 30 secondes, avant de formuler une proposition, dans 30 secondes, expédie, laissez-moi en fait informer aussi à toute l'opinion que. Et il n'y a pas seulement les aspects négatifs, il y a aussi les aspects positifs, notamment les églises qui se sont appropriées cette question de la gestion des déchets en s'appropriant les messages du pape François, Laudato si, donc la planète Terre, notre maison commune. Et aujourd'hui, la commission de justice et paix et même toutes les sous-commissions, notamment les comités locaux de gouvernance participatives aujourd'hui sont à pied d'œuvre dans toutes les paroisses. Vous avez et dans tous les quartiers et dans toutes les avenues, vous avez aussi ces comités qui sont à pied d'œuvre pour essayer de sensibiliser, de conscientiser et de s'approprier la question de la gestion des déchets pour essayer au fait de protéger notre environnement, notre terre, maison, commune et Laudato si. Mais au-delà de ça, au fait, s'il faut parler des propositions. J'ai bien suivi son Excellence Monsieur le Ministre quand il a parlé de la note circulaire et il a donné le moratoire, c'est-à-dire qui va jusqu'au 28, je pense. Monsieur le Ministre, vous allez commencer quelque part. Vous devriez commencer quelque part. Et moi, je vais vous proposer l'endroit où il faut commencer. C'est l'avenue du gouverneur. à partir de numéro 14, il est venu. Quoi, général, ou police, il est venu. À partir et à part
moins et par commencer par là, ne peuvent pas se déplacer dans les sens opposés.
Il faut vraiment évacuer ces histoires.
Et même sur Avenue Sayo,
c'est dit n'importe quoi. Pas vrai, mais tout il y a mon piapa. Léo, il n'a joué au garage. C'est dit n'importe quoi.
Quel garage?
Moi, je pense que vraiment les gens doivent comprendre que nous devons arrêter de rester villageois pendant que nous vivons dans la ville. Monsieur Expédit, vous nous avez demandé de donner des propositions. C'est la première proposition, c'est de demander à toute la population de s'approprier cette question de la gestion des déchets. Une question à qui la moutre s'applique, nous l'avons dit dans cette question. Tous les acteurs, nous tous, nous devons nous mettre à l'œuvre pour sensibiliser, pour conscientiser. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous devons aussi en fait, créer un réseau pour dénoncer tout ce qui se passe par rapport à la question des déchets. Vous avez des épaves un peu partout, des véhicules un peu partout et qui rendent les non-routes exiguës. Et là, ça pose d'énormes problèmes. Et à ce niveau-là, nous, on ne peut pas accepter. Troisième proposition, on l'a déjà dit ici, c'est le fait de responsabiliser les cadres de base. De bien aussi encadrer ces cadres de base. Moi, j'ai l'impression comme si on a tendance à remplacer... L'État cherche à remplacer les pouvoirs publics. Donc l'État, devient ennemi de l'État. Et là, ça va poser problème. Les associations qui remplacent l'État congolais. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire. Une association sans but lucratif qui signe un contrat de partenariat pour percevoir des taxes dans nos avenues. Pourtant, il y a l'État congolais qui est valablement, suffisamment et fortement représenté là-bas à travers les cadres de base, à travers les Nyumbakumi, les chefs de quartier et consorts. Il y a même des entreprises qui peuvent faire ça plutôt que de faire avec les associations sans but lucratif. Ils deviennent avec but lucratif.
Peut-être l'idée également de renforcer les brigades d'assainissement dans les communes.
Les brigades d'assainissement, là je suis d'accord. Et c'est là que je soutiens l'idée du ministre quand il dit qu'il va mettre en place des brigades et que ça soit effectif dans les avenues, dans les quartiers et dans toutes les communes.
Merci.
Mais ici aussi, on sent que la responsabilité des communes et des bourgmestres n'est pas ressentie dans la gestion des déchets. Et c'est à ce niveau, tous les marchés sont dans des communes. Les marchés Bichi Mwanzi, c'est dans la commune de Kadutu. Les marchés Ferou Genyawera, c'est dans la commune d'Ibanda. Les marchés Brasserie, c'est dans la commune de Bagira. Mais les bourgmestres, qu'est-ce qu'ils font?
Merci.
On sent qu'à ce niveau-là, ils sont là seulement pour percevoir des taxes, plutôt que de gérer les déchets qui ressortent de ces marchés.
Merci beaucoup, Zozo. Emmanuel Moulindo, également perspective en 30 secondes.
Merci beaucoup. Je suivis le ministre et je suis très heureux que nous ayons un jeune ministre qui a une vision. Il n'a pas parlé comme le communicateur de la mairie qui dit, comme nous l'avons suivi à Kinshasa, Mboka et Kofakala, il n'y a plus rien à faire. C'est ce que le communicateur du maire a dit. La ville est exéguée, il n'y a plus rien à faire. Donc Mboka et Kofakala, comme l'a dit le chef de l'État en un certain moment. Alors là où je ne suis pas d'accord, on distribue les parcelles. Les commissionnaires dont a parlé Migabo, l'histoire des ramassages désordonnés des déchets qui finissent dans nos routes, l'histoire des néo-respect, n'est-ce pas, des orientations données par les autorités, c'est parce que au niveau de l'autorité on oublie la notion de Léviathan. Cette façon de responsabiliser les ménages, oui, mais il faut savoir que même dans l'ancienne antiquité, on a compris que les humains ne pouvaient pas se diriger eux-mêmes. C'est comme ça qu'on a créé le Léviathan, l'autorité. Ce monstre à plusieurs têtes que représente ici le ministre, ici présent.
Avec le bateau en main.
Il faut la carotte, mais il faut aussi le bateau. Il faut imposer des fois les choses. Les ménages, on ne nous a pas dit ici, par exemple, les ménages qui ne sont pas abonnés dans ces véhicules, dans ces organisations de ramassage des déchets, comment on les traite? Parce que c'est là où j'insiste sur la responsabilisation des Nyumbakumi. Mais quel Nyumbakumi là aussi? Il faut qu'on en fasse qu'on donne des Nyumbakumi, des chefs de quartier responsables comme Migabo. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des Nyumbakumi en train de circuler parce qu'on leur a demandé de circuler, demandé que l'on ne vende plus les boissons fortement alcoolisées. Mais pendant qu'ils circulent, lui-même dit Muziweke kwenye tunaweza kuwa tunauzia bila kuzionyesha. Alors, des Nyumbakumi comme ça, on n'en a pas besoin. Il faut aussi des hommes responsables. Il faut des personnes qui peuvent être respectées dans la communauté. Et donc, un ministre comme ça, il est encouragé. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête à la vision. Il faut que la vision soit concrète sur le terrain.
Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Augustin, également, votre proposition.
Oui, très bien, merci. J'ai deux axes.
Un peu de mots aussi.
Oui, un peu de mots en tout cas. La première chose, c'est de considérer les aléas climatiques comme une forme d'insécurité, finalement, comme j'ai à le dire. Il faut qu'on comprenne ça. Et à ce titre, je propose qu'on organise, pourquoi pas, un atelier sans complaisance, où on va inviter des têtes pensantes en matière de gestion des risques pour nous produire un plan de gestion, prévention et gestion des catastrophes. Est-ce que vous savez que nous avons des ressources humaines rares ici au sud Kivu? Je prends par exemple le professeur Kacho. Mais il faut les rencontrer pour comprendre ce qu'ils représentent, la valeur de ces réflexions. Pourquoi pas on ne peut pas le capitaliser? Nous avons par exemple les professeurs qui analysent les dynamiques sociales. Les professeurs Emery Moudinga. Il y a les professeurs Justé Chéria, les professeurs Kaganda. Mais c'est des têtes qu'il faut capitaliser. Il y a également des chercheurs juniors. On est avec Daniel Mouroula, que je félicite. Il y a d'autres chercheurs qui sont dans les centres de recherche aujourd'hui. Donc c'est une question qu'il faut approfondir.
Merci.
Je vais alors pour finir au niveau de l'État. En fait, c'est l'État, mais l'autre axe, c'est quoi? Il faut renforcer les services publics. Je venais de suivre mon aîné Zozo. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre contre l'État. L'État qui ouvre un front contre lui-même. Je donne un exemple pratique. Allez dans les ETD, les mairies. Comment on paye les agents de carrière de l'État? Ouais. Et vous allez voir que c'est des gens qui sont chosifiés. Allez à la mairie, par exemple. Vous allez trouver qu'il y a une disparité entre les agents de carrière de l'État et les
cadres politiques.
Le personnel politique. Et pourtant, ce sont ces agents-là qui comprennent, qui font, qui réfléchissent, mais ils sont chosifiés. Même au niveau du gouvernorat, c'est la même chose. Vous allez voir qu'il y a disparité. Et donc, c'est des questions comme ça, au niveau des communes. On peut encourager. C'est pas parce que Migabo est ici, on comprend qu'il est, très introduit dans la question de la gouvernance. C'est quelqu'un qui a déjà compris que la gouvernance déborde le périmètre du gouvernement. Et finalement, la gouvernance implique l'interaction entre les agents étatiques, le gouvernement, les ONG et les secteurs privés.
Merci beaucoup.
Et c'est comme ça que nous pouvons finalement, et je vais finir en disant, chaque ministre, chaque bourgmestre, chaque maire doit avoir sa vision. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière la vision du chef de l'État. La vision de maire, du bourgmestre, doit s'aligner sur la vision du gouverneur. La vision du gouverneur doit s'aligner sur la vision du président et la vision de chaque ministre doit s'aligner sur la vision finalement du gouverneur. Donc je salue le ministre ici, il a sa vision et on comprend. Mais et que chaque ministre dans son secteur définisse sa vision,
qu'il
s'aligne
d'autres n'existent
sur la vision du chef d'État.
Merci beaucoup, Joseph. Également, votre conclusion par rapport à cette discussion.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais il est à rappeler que le problème de gestion des risques environnementaux se règle entre gouvernants et gouvernés. Nous ne devons pas dire que tel ou tel autre peut faire telle chose, mais nous devons d'abord nous approprier ça pour régler immédiatement. En second lieu, nous avions parlé des véhicules sur la chaussée. À ce net moment, dans ce studio, je viens d'être alerté qu'au niveau des ronds-points Salama, dans les quartiers d'Indere, les gens manquent où passer leurs véhicules parce qu'on les prend comme garage. Il y a les policiers qui sont là et je suis heureux d'être avec le chef de quartier qui nous représente dans cette partie. Je pense que le communiqué, il a le droit d'exécuter les messages donnés par l'hiérarchie et même ravir des plaques pour qu'à son tour, il vienne les récupérer avec des amendes. C'est d'abord un message. En second lieu, nous avons un autre problème qui nous cause beaucoup de dégâts dans la ville de Bukavu. Je peux demander à nos autorités au niveau provincial de réglementer la situation des commissionnaires. Il nous faut beaucoup d'erreurs en construisant même sur les sites où on ne doit pas construire. On doit réglementer certaines choses. Parce que si nous prenons les exemples de d'autres entités, Kaonga, quand il était gouverneur du Nord Kivu, il avait réglementé ça et au Nord Kivu, vous n'allez pas rencontrer ces problèmes. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées à cause de ces gens. En Chita, il y a aussi les problèmes de nos populations. Ils doivent comprendre que vivre en ville, c'est très différent avec la cité.
Il faut une éducation.
Nous devons comprendre que la manière dont on a vécu, peut-être moi qui étais chez moi à Kaniola, quand je suis arrivé à Bukavu, je dois changer ma mentalité. Parce que chez moi, j'ai l'espace de 50 mètres carrés où je peux mettre des immondices. Mais quand je suis arrivé dans une maison de 5 sur 10, je suis limité et je dois corriger ma manière d'être. Et je félicite aussi également la population et le chef de quartier qui ont compris que les salons n'est pas pour les maires ni pour les bourgmestres. Le chef de quartier qui est représenté avec les responsables Migabo Nyagaza, je pense qu'il va faire arriver ce message aux autres pour imiter le chef de quartier Chai avec qui on était hier à l'essence pour évacuer les immondices sur la route nationale numéro 5.
Merci Joseph, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication de la mairie de Bukavu. Il y a ce message de l'ancien bourgmestre d'intérim d'Ibanda qui rappelle qu'il avait créé une brigade d'assainissement à la commune d'Ibanda pour s'occuper du débouchage des caniveaux, mais surtout des ramassages des déchets orphelins, mais surtout s'est rassuré de l'évacuation des déchets ménagers par les entreprises dûment acceptées par le pouvoir étatique en place. Et là, il pouvait rassurer les cadres du travail de cette brigade, nous rappelle donc Maître Daniel Orunig. Oui, la responsabilité des communes, mais monsieur le ministre, je me rappelle que le gouverneur a promis de doter les communes, je crois, d'une enveloppe pour chacune des communes de 20 000 dollars américains, si ma mémoire est fidèle, pour l'évacuation des déchets. Est-ce que cette enveloppe a été déboursée?
Oh, merci de la question posée, monsieur le journaliste. Je vais dire que pour la question là de la rétrocession, je crois que, comme nombre des analystes y sont revenus, les gouverneurs pourront se devenir le premier gouverneur à rendre effective cette politique de la décentralisation qui exige à la province, au travers ces taxes d'intérêt commun, de rétrocéder aux entités inférieures, notamment les communes et les ETD au niveau des territoires. Il devient le premier, je dois le dire comme ça. Le 8 septembre de cette même année, au stade de la Concorde, le gouverneur est revenu sur cette question. Et il a promis pouvoir donner, au fur et à mesure qu'on évolue, la rétrocession à chaque entité. Et les premières entités qui ont été citées par le gouverneur le 8, ils ont déjà eu leur rétrocession. Alors, au stade actuel, on évolue, mais maintenant, le gouverneur a instruit à chaque responsable de l'entité que cette fois-là, avant qu'il ne puisse ordonner qu'on lui remette la rétrocession, qu'il vienne avec un projet. Et que c'est sur base de ce projet que maintenant, le gouvernement provincial va financer
au travers de cette rétrocession. C'est ce qui devra nous permettre d'effectuer un véritable suivi de comment cet argent aura été utilisé.
Monsieur le ministre.
Et donc, pour ce qui concerne les trois communes de la ville de Bukavu, nous sommes en train d'y travailler. Le gouverneur a insisté d'ailleurs que très bientôt, on va organiser un audit pour essayer de comprendre la gestion de nos ETD.
Merci.
Ce qui nous permettra de savoir effectivement où se trouvent les problèmes.
Merci. Nous atterrissons par vous. Quel engagement vous prenez comme ministre de l'Environnement pour, dans votre secteur, éviter à la province du Sud-Kivu ces genres de catastrophes, et quelles recommandations adressez-vous à la population de Bukavu? J'ai suggéré que les recommandations, vous le fassiez en kiswahili pour que les auditeurs vous écoutent ou entendent convenablement votre message.
Accent. Nilitaka kusema hivi. Gouvernement provincial, kupitia liwali, Jean-Jacques Purusi, il weza kupresenter programme yake ya miaka tano de 2024 mpaka 2028. Ku cinquième axe stratégique ya ile programme, gouverneur alisema kama il va s'impliquer mu amélioration ya cadre de vie ya population ya Sud Kivu. Na mwa ile axe njo mina jatele yako actuellement pour voir comment est-ce que province ya Sud Kivu inaweza kuwa parmi les provinces ASENI. Je vais dire que kama sisi viongozi hatupate kueduke population yetu, haita changer mentalité. Il faut que ile population isentire kama loi ina existe na bana pasha kuyeshimia. Je ne me nasema vile. La dernière fois nilikuwa ku hotel residence mukiwanja pale kubodiga. Nangalia sayo. Nakuta sayo quelque part kuna yala buchafu sur les lacs. Et pourtant ni zone enye masamaki zinapashwa kujireproduire. Quand je pose la question, on a dit kama kuko baba umoya mwenye anakuwa na parcelle ya kabambi pale, batu ya musayo bote kila mtu anamuleteaka 1000 francs saki ya buchafu anamwanga pale. Alors yeye tellement que yeye ndio wa mwisho kulak, ana profiter le buchafu anemwangia mulak, kisha anaenda ongea na batu ya Sino Hydro benye biko na jenga ile barabara ya sayo, ile bulongo ba anakopere na banakia imwangia yulu ya ile buchafu pour que apate parcelle. Alors je me suis dit finalement il province. J'ai fait une autre quoi à la base, il y a quoi province. Le lendemain, il y a un appel. Ça m'a fait que exactement, tout le monde n'a pas parlé. Maman, au moins, il y a un sacré qui a été fait. Il y a un appel. 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 Finalement, c'est quoi, moi, province, Bandou?
On les moufagne à
Ebouane. J'ai appelé le commandant, le commissaire provincial de la police.
Voilà, les
qui m'a envoyé immédiatement la police là-bas.
C'est ça, les Léviathan.
Bakakama, t'as parlé. Là où le mouton est sinon hydro, là où le papa est pequeno.
C'est ça le Léviathan, excellence.
Dans l'Afrique, au cachot, ils ont fait deux jours au cachot parce que n'ils pas dans toutes conditions. Moi, mon état, comment, où ils n'ont pas d'autorisation, où ils baba, à tout que parle, là où le mouton est sinon hydro, ils vont nous faire parler. Si qu'ils vous faire fouiller, ils n'ont pas de
accent.
Alors, c'est comme ça que ils vous faire fouiller, ils n'ont pas de finalement, bah, l'état va tout, bah, calipa va tout parler, bah, casse zola, vous faire fouiller. Aujourd'hui, qui pita quoi? Qu'on attaque à
tout.
Ni le quoi ku salongo apa ku major vango. Nakuta ba mama biko na depo ya maembe. Ile maembe yote yenaoza yote banaletaka ku barabara banamwanga mu ferage ngine batia sur la route. Nafika pale mimi nafanya ko salongo toute une journée natoka ko 19h. Nilianza na 7h. Kisha mimi naenda ambia bale mama bajenge poubelle mule ndani ndio wako natia ile kisha batavute une société ni batajadire yako iko na kama tele buchafu
voilà.
Mais bale ba mama banavitia tena ku sur la chaussée juzi nafika kuna kamata responsable wale ba mama na yeye nikambeba mkasho jana asubuhi mimi napata information kama ile buchafu yote ile chatoka
voilà.
Jana sasa mimi namaliza kulancer le projet ya nini ya collecte ya société rabi juu ya buchafu naenda bwindi kwenda ngalia kule kwenye nilifunga kabatu basi endelee tena kumwanga uchafu sur le lac. Nakuta kamio tatu tena ziko na mwanga nyingine uchafu pale. Pale mimi napata possibility ya kufunga magari mbili mwaka kimbia. Daire kwanza gari yangu kiona bali igonga kwenye kuna kimbilia keno bana tafuta kumfunga. Alors, je me dis batu finalement hii inchi tutaifanya kaishi pote ndio tuko ala base ya
huko kuharibisha
accent. Kwa kumaliza
kumaliza
nataka ku
N'apitaka ko remercier bravoure ya FRDC. Le samedi passé, FRDC il est mobilisé sur base ya ma relation zenye tout le mettre en place pour voir dans quelle mesure qu'il a moto anaoza kuji. Ku kamata yo salongo comme si ni activité ya que mais activité ya maire de la ville ah ya ministre. Ils ont été vus sur la voie publique à Bukavu de 8h à 12h vu comment les cases n'a pas fora et cases yenye ba yoza kufanya. Na kwa kumaliza toujours pour améliorer le cadre de vie à ma population, il y a Bukavu kwanza pour que tout le monde Bukavu ne s'attaque. Je veux dire que Nilifanya diplomatie dans les 3-4 mois que je suis ministre, gouvernement provincial au travers ministère et environnement, tout le monde a été doté déjà na un camion, trop na camion à Kabambi à Oo déjà, pas le ministère et Ango, na une machine tractopelle, et n'y est à ni permettre que syndicise ma effort et à maire de la ville. Pour que tu aies si evil il n'a osé kutakata. Donc c'est d'un fait de c'est pour aussi demander qu'on mairie dans la maire de la ville à l'Issema Kama sur une population estimée à 2 millions à Pabukavu, il qu'on a camion au moins yaku évacuer Boutaf. Il faut que maire a fournir ma effort pour que apate encore zingine manger ça comme ça. Il dit parce que il a les taxes pour ça.
Merci beaucoup.
Dans ma commune Nazo, je vais y arriver pour dire aussi que la commune, c'est une entité territoriale décentralisée.
Merci,
il y a ressources, il faut nous ingérer plan de gestion. Il y a
nous vous remercions pour la participation à cette émission.
Donc je souhaite que, oui, il est ma question, zote, tout y mettre, qu'on moustache, n'a tout dû rassurer, comment cette voie-là, qui la moutou, naït à la population, yétou, bandougou, qui la moutou, quoi que, a dit kaze, a géré, boutiafou, yake, qui la moutou, a dit kaze, a dit abonné, kou, organisation enye ina collecter buchafu du tuone kama ibukavu inaweza kuenda mbele parce que trop c'est trop batu biko nakufa unasikia mfereji libeba mtu kisha kesho mnasema oh gouverneur oh ba dirigeant habafanye kazi pourtant mwe peke population ndio mko à la base ya ile ma problème.
Merci. Il y a le rapporteur de l'Assemblée provinciale Anani Lulanga qui rappelle que la population de Bukavu doit prendre conscience des dangers imminents.
Voilà.
La mauvaise gestion des déchets et les constructions en Afrique sont à la base des érosions et nous allons organiser dans peu de temps une émission qui va inviter les services fonciers pour qu'ensemble nous réfléchissions sur la question, parce qu'il ne s'agit seulement pas de la gestion des déchets, il s'agit également d'une question de l'urbanisation de la ville de Bukavu. À ce sujet, je rappelle qu'il y a eu une retraite qui avait pour objectif réaliser un état des lieux du secteur foncier au sud qui voulait produire la cartographie des interventions foncières. C'est entre autres objectif d'une retraite qui a été lancée jeudi dernier par le ministère des Affaires foncières. Dans cette retraite de deux jours, les défis liés à l'administration foncière ont été analysés et un état des lieux de l'aménagement de la province a été établi. Cette retraite a été clôturée vendredi dernier. Nous y reviendrons en fin de cette première partie. Nous revenons dans peu de temps pour parler de la révision ou du changement de la Constitution.
De la République, nous avons la victoire. Dieu est au contrôle.
Ça ne va pas.
Yeah.
Ça ne va pas.
Ah.
Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas.
Ça ne va toujours pas. Soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi ce calme? Pourquoi ce silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées,
pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit,
ça ne va pas.
Oh, oh, oh.
Ça ne va pas.
Ça ne va pas.
Disons juste la suite de l'émission Paix et Développement de ce jour. Personne n'en échangera mon avis sur cette question, a donc indiqué Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui s'engage à réviser et, si nécessaire, dit-il, à changer par référendum l'actuelle constitution qui, selon lui, consacre la vente de la souveraineté du pays à certains États africains. Il l'a dit hier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Je vous propose de suivre le chef de l'État.
C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains, nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution.
Voilà, vous avez suivi le chef de l'État hier en meeting populaire à Lubumbashi. Augustin Moudé-Kereza, vous êtes cadre et communicateur de l'UDPS Tshisekedi. À bien entendre le chef de l'État, cette démarche ira jusqu'à son terme.
Oui, bien évidemment. Je pense que on aura péché si on n'arrive pas à faire aboutir cette démarche. Pourquoi? Pour une raison, parce que lorsque beaucoup de gens parlent du pays, ils n'ont pas le temps de jeter un regard rétrospectif sur la vie du pays, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, les gens doivent comprendre que avant que la RDC ne devienne un acteur des relations internationales,
elle a été d'abord objet des relations internationales. C'est-à-dire que nous avons été la convoitise d'un système de prédation depuis 1885. Vous rappellerez quelques notions de l'histoire élémentaire. On dit les grandes puissances de l'époque avaient signé la liberté de navigation sur le fleuve Congo. Pourquoi ça? Vous comprenez, c'est que la RDC représente un enjeu pour le monde et du coup devient l'objet d'un système de prédation. Alors, ce que j'ai constaté quand j'essaie d'analyser attentivement l'histoire, je trouve que à chaque époque pour notre pays, ces défis. À chaque défi, les hommes politiques. Kassavubu était président de la République, il a fait face aux défis sécessionnistes, il a combattu. Il y a Mobutu qui est arrivé, il a combattu également les défis avec sa philosophie, le nationalisme. Il y a Kabila père qui arrive, qui lui-même se rend compte que ses parrains, il avait un plan, mais ses parrains avaient un autre plan. Et il a dit ne jamais trahir les Congos. Il y a Kabila fils qui va arriver aujourd'hui, après qu'il ait donné tout aux Européens, aux Occidentaux, il s'est rendu compte. Et puis il a dit j'ai la passion pour les Congos. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réviser les codes miniers. Pour qui je le félicite personnellement, parce que c'était à la fin de son mandat, on a vu même des grandes confessions religieuses à l'époque qui s'en sont liguées pour dire non à la révision du code minier. Pour ça, nous avons combattu la dictature de Mobutu, la dictature de Kabila père et fils. Mais pour ça, personnellement, j'ai toujours dit bravo à Joseph Kabila pour avoir dit non aux impérialistes et pour avoir révisé les codes miniers.
Et donc, la constitution passe pour le plus grand défi pour Félix Tshisekedi et c'est l'une des grandes innovations qu'il va implémenter.
Non, écoutez, ce qu'il faut savoir, que le socle de l'actuelle constitution, c'est l'accord global et inclusif de Sand City.
Il y est revenu.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque Kabila arrive, on ne rentre plus dans l'histoire comment les pays étaient morcelés par des rébellions. Et on va trouver les belligérants qui vont se rencontrer autour d'une table et qui vont discuter. Et chaque belligérant avait ses conseillers. Et donc, on va voir par exemple les gens qui étaient au MLC, comme Délice Sanga et Jean-Pierre Bemba, ils avaient comme conseiller des Ougandais. On va voir les RCD qui avaient des conseillers de Rwandais. Au niveau du gouvernement, c'était essentiellement des Européens qui donnaient des conseils. Et finalement, on trouve que l'âme de la Constitution n'est pas une âme congolaise. Effectivement, on a dû voter. Pour nous, on avait boycotté d'abord. Il faut qu'on rappelle ça. On n'était pas dans les démarches parce que nous avons dénoncé à son temps les démarches qui étaient mises en œuvre pour faire avaler aux Congolais une constitution. Il y avait maintenant ceux qui avaient accepté d'entrer dans les jeux. Il y avait des tendances qui s'étaient dégagées, la tendance des oui, la tendance des non, et après, la tendance des non et des oui l'avait remportée. Mais nous, en tant que républicains, on s'est dit, ok, les scientifiques disent, ceux qui lisent Pierre Bourdieu disent qu'il existe ce qu'on appelle la théorie des coups de force symbolique. Nous nous sommes inclinés, on a dit, faisons avec.
Quand vous en avez la possibilité,
oui,
vous modifiez la constitution.
Tout à fait.
Vous changez la constitution. Merci beaucoup, Augustin.
Je voudrais placer un mot pour ne pas perdre l'idée. C'est pour dire ceci. L'avènement de l'UDPS au pouvoir, c'est un événement majeur pour les pays, il faut le noter. Parce que, à part Kassavubu, tous les autres présidents sont arrivés au pouvoir par coup d'État. Mobutu est arrivé au pouvoir par coup d'État. Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir par coup d'État, Joseph Kabila également, parce que...
Il est issu d'un coup d'État.
Il était élu pendant qu'il était déjà président de la République.
Oui, c'est ça. Il faut qu'on le sache. Ce n'est que...
Il faut le retenir.
Ce n'est que Kassavubu et Félix Tshisekedi qui ne sont pas arrivés au pouvoir par coup d'État. Et donc, c'est un événement majeur. Nous devons prendre notre destin en main. Pourquoi on a peur que les Congolais réfléchissent?
Merci. Ça veut dire... Merci, Augustin, s'il vous plaît.
Merci.
Entre-temps, il faut dire que plusieurs personnalités politiques, des mouvements citoyens et des partis politiques de l'opposition ont lancé le week-end dernier un appel contre le changement de la Constitution et l'éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi. Selon le membre de cette plateforme, Félix Tshisekedi cherche à rompre le pacte de stabilité pour s'accrocher au pouvoir au-delà de ces deux mandats. Déjà, une série d'actions d'envergure à l'échelle nationale et dans la diaspora pour lutter contre cette réforme a été envisagée. Et le jeudi, les ténors de ce mouvement étaient dans la rue pour sensibiliser les habitants à s'approprier l'initiative. Certains d'entre eux ont été arrêtés brutalement puis relâchés à l'instar de Délice Essanga, président du parti politique En Vol. Nous nous retrouvons dans ce studio avec le coordonnateur provincial de En Vol, Bagabo, bonjour.
Bonjour Monsieur Expedi, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les débatteurs.
Vous avez suivi le chef de l'État à Lubumbashi, il fonce tout droit vers l'idée du changement de la constitution, une constitution qu'il qualifie de constitution de Lambo.
Bien, nous avons suivi Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République pour le moment, avec son discours de diversion depuis Lubumbashi, après le discours de Kisangani, au cours duquel il veut ou il montre directement sa position qui vise à changer notre constitution. Ça signifie il veut qu'on quitte la Troisième République vers la Quatrième République, ce qui amènerait d'abord les compteurs à zéro, avec tous les risques possibles. Nous avons bien suivi et analysé son dossier et nous avons fait aussi une sortie médiatique hier même à travers notre président national, Délice Essanga, lui qui maîtrise très bien le rouage, lui qui maîtrise très bien la manière de faire de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi prend l'alibi sur l'article 217, oubliant que son père, Étienne Tshisekedi, est co-rédacteur de la Constitution de 1967, qui, à son article 69, on a bien précisé que notre pays, à l'époque où c'était encore le Congo, a la possibilité ou peut facilement céder, conclure des traités avec les pays au nom de l'unité africaine. On se pose la question, est-ce que son père à l'époque là avait péché ou avait fait quoi? Nous nous posons la question, est-ce que pour le moment, M. Félix Tshisekedi peut nous rassurer que nous allons d'abord quitter l'Union africaine, parce que nous nous rendons finalement compte que à partir du moment où un pays adhère à l'Union africaine, cet article est presque demandé dans toutes les constitutions pour promouvoir cette Union africaine. Je me pose la question, où nous nous posons la question finalement, M. Félix Tshisekedi veut nous amener où? Il veut amener le pays où? Et nous sommes en train de voir les dangers, il y en a nombreux. Parmi les premiers dangers, c'est que d'abord, lui, il veut se pérenniser au pouvoir. Vous savez, lorsque le compteur est remis à zéro, directement, on ne considère plus qu'il a été président, on ne considère pas que tel a été président, tout le monde dans la course, c'est lui qui organise les élections avec sa manière de faire, avec la tricherie que nous connaissons dans notre pays, il va toujours revenir et cette misère qu'il a créée au peuple congolais, ça va toujours continuer. Le deuxième danger que nous sommes en train de retrouver, c'est que le pays risque de se déchirer parce que même dans son rouage là, il y a des gens qui ne sont pas pour la modification de la Constitution. Quand bien même l'article 220 de la Constitution verrouille, ne donne pas la possibilité à qui que soit pour le moment de changer la Constitution. Et quand il faut parler par exemple de la modification de certains articles, il y a aussi, la Constitution a prévu les modalités pour passer à la révision
constitutionnelle, mais pas au changement de la constitution. Alors, pour le moment, nous sommes en train de trouver que nous voulons rentrer à la case de départ. Il venait de dire ici comment, quand Kabila, les jeunes, est venu, le pays était morcelé. Il a fait des efforts, ils ont eu des conseils un peu par-ci, par-là, et quand bien même Étienne Tshisekedi était encore vivant, lui-même il participait à ces travaux-là. Il ne peut pas se dédouaner aujourd'hui. Parce que la constitution que nous avons, c'est la fusion de la constitution d'Étienne Tshisekedi et la constitution qui n'avait pas abouti, la constitution de l'ordre de la conférence nationale souveraine. Ça, c'est, je crois, vers les années 90 là-bas. C'est ce qui a fusionné maintenant aujourd'hui. Il dit que les experts, il y a eu des étrangers qui ont participé à la rédaction de cette constitution. Moi, je peux facilement dire, c'est un problème que nous avons au pays. Aujourd'hui, il y a des experts de la Banque mondiale qui viennent en telle ou telle autre matière, qui viennent aux côtés des experts congolais pour essayer un peu de corriger ceci ou cela. Moi, nous avons eu l'histoire selon laquelle il y a eu quelques experts qui sont venus, pas seulement de blancs, mais aussi de l'Union africaine, pour donner coup de main et dire faut pas divaguer. Et je pense que ce sont ces gens-là qui ont montré, non mais au nom de l'unité africaine, cet article 217 doit figurer. Voilà donc, nous on est en train de penser que M. Félix Tshisekedi est en train d'amener le pays dans un trou, comme il a déjà enfoncé dans les trous, et nous avons dit non. C'est pourquoi nous avons lancé...
Bagabo, le chef de l'État, il a dit, ceux qui vont manipuler la population seront exposés à la justice et à des poursuites judiciaires. Le débat est permis, il l'a dit, je l'accepte sans problème, mais la manipulation est interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion adressée à un groupe de Congolais contre d'autres Congolais. Vous étiez jeudi
dans la rue. Non, mais c'est finalement lui qui manipule les gens.
Vous étiez jeudi dans la rue à Kinshasa et votre président national, Déli Sassanga, a été interpellé dans les conditions qui sont connues de tous parce que une vidéo a fait les tours des réseaux sociaux. On a compris comment on l'a malmené pour l'amener au poste de police. De quelque part, n'avez-vous pas peur?
Vous savez, sans la lutte, vous n'obtiendrez rien dans ce pays. Ça, c'est Lumumba qui l'a dit de son temps. Nous, on pense aujourd'hui que le peuple congolais, c'est lui qui est en train de les manipuler. Déli Sassanga a été arrêté et après avoir été arrêté, on l'a relâché. Il a montré à la face du monde que tout le monde doit s'approprier ce projet ici parce que la constitution aujourd'hui, c'est ça la manipulation de M. Félix Tshisekedi. La constitution aujourd'hui n'interdit pas ou n'autorise pas à M. Félix Tshisekedi d'orchestrer des détournements détournements.
Dites, en fait,
mais comment? Des détournements dans ce pays.
Vous n'allez pas avancer des propos, sachant que il revient à la justice de dire que X ou Y a détourné.
Oui, mais monsieur Expedi, nous sommes tous dans ce studio, nous savons qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Ce pays ici, la redistribution équitable des richesses du pays, telle que la Constitution le prévoit. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes journaliste ici. Combien vous êtes payé? Bien que ça soit dans une radio.
Mais nous rappelons qu'il revient aux instances judiciaires ou par exemple.
Pas question des instances judiciaires. Vous savez.
Quiconque a détourné.
Cher Expedi, nous devons être très clairs. La question ici de dire la justice, ainsi de suite, ça c'est une manière de frustrer les gens.
Mais pourquoi vous ne laissez pas au peuple congolais de décider de son sort en allant au référendum, accepter ou pas le changement de la constitution?
Pour qu'en fait qu'on ait quoi? Pour qu'en fait on améliore quoi? La constitution n'interdit pas aujourd'hui qu'on nous finisse les désordres qu'il y a dans ce pays, qu'on nous finisse les guerres dans le pays, qu'on nous fasse tout ce qu'on a promis. On a un sac de promesses de M. Félix Tshisekedi, le président de la République actuel, mais qui n'a jamais réalisé. Est-ce que lui qui n'est pas en train de respecter les dispositions de la constitution qu'il a lui-même, auprès de duquel lui-même a prêté serment, est-ce qu'il va respecter les dispositions de la constitution qu'il veut mettre en place? Nous avons trouvé qu'il y a un danger. Et ces dangers, nous devons l'éviter pour le moment. Monsieur Félix Tshisekedi doit se concentrer sur le social de la population. Comme il l'a promis, il doit d'abord travailler pour la population et que cette même population lui-même lui revienne après et qu'elle lui dise, non mais finalement, on a trouvé votre bonne volonté, mais à tel niveau vous êtes bloqué.
Merci.
On ne sait pas finalement, la constitution bloque le président de la République actuel en quoi pour qu'il fasse l'essentiel qu'il doit faire pour le peuple congolais.
Merci.
Lui, il est dans des voyages très stériles, des voyages qui ne nous rapportent rien, qui pille les caisses de l'État et oublie qu'il a un peuple.
Merci.
Et c'est pour le moment qu'il se rappelle qu'il doit tourner parce qu'il doit désensibiliser les gens à se diviser. Non,
merci,
nous refusons
merci,
ça.
Merci Bagabo.
Emmanuel Moulindo, certains acteurs du PPRD se sont prononcés à titre individuel, mais la structure PPRD, pourquoi elle ne s'aligne pas dans la dynamique de l'opposition et des mouvements citoyens pour parer la route à cette initiative? Parce que le PPRD s'identifie comme étant partie de l'opposition.
Ouais. Ici, je parle comme Corep et comme PPRD à la fois, cadre du PPRD et commissaire au Corep. Et que donc, mon cher, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, parmi les promesses, il nous a dit qu'il ferait du Congo l'Allemagne d'Afrique. Et c'est maintenant que j'ai compris cette parole. J'ai situé l'Allemagne que Félix veut nous donner en Afrique. Eh bien, je trouvais que c'est l'Allemagne hitlérienne. L'Allemagne hitlérienne, quand le Reich arrive au pouvoir, avec un ton comme celui que je viens de suivre, un ton dictatorial, personne ne peut m'empêcher. Voici les propos de Félix Tshisekedi. Eh bien, il ignore que même la constitution qu'il veut toucher, la constitution sur laquelle il a prêté serment, lui interdit cette arrogance. Parce que nous sommes en état de siège, nous sommes en guerre, la constitution est bien claire, on ne peut pas la toucher à ce moment-là. Tshisekedi aujourd'hui se comporte comme s'il est venu dans un pays où il est le seul citoyen à même de parler et que les autres doivent se taire. Non. Eh bien, vous savez, l'arrogance mène à la chute. Et que cette façon de voir les autres, moi je vois comme si on veut nous amener où Mikhaïl Gorbatchev a amené l'ex-IRSS quand il a accédé au pouvoir dans cette ex-IRSS. Il est parti, laissa le pays démantelé. Félix Tshisekedi ignore que ce pays, Kabila le jeune, l'a repris quand il n'existait plus. Parce que Joseph Kabila prend ce pays quand il y avait une républicaine de Robert Roy, appelée le RCD, une républicaine de Jean-Pierre Bemba, le MRC, et que nous, à la société civile, moi à ce moment-là j'étais à la société civile, quand on quittait Bukavu, on passait par Nairobi pour faire Kinshasa. Kabila nous laisse réunifier. Eh bien, le monsieur vient avec arrogance, le pays déchiré. Quel serait le comportement de Nanga? Comment? Nanga?
Assied du PPRD.
Le M23. Comment il va se comporter avec ses discours? Parce que demain, on risque de nous dire que ce territoire, qui veut nous diviser, au fait, si sympathie, c'est qu'il dit, et son UDPS. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
Donc, pour vous, ce débat alors, va diviser le peuple plutôt
ce
que...
Ce débat, au lieu de nous unir, va nous diviser.
Tant mieux si c'est
vous
une
savez,
division d'opinion.
Quelle division d'opinion? Non, malheureusement, non. Puisque nous venons des élections... Nos amis du Nord Kivu, une grande partie du Nord Kivu n'a pas voté. On parle des référendums. Comment on va faire pour que ces gens votent? Pour que ces gens expriment leurs opinions? Vous ne voyez pas que ces gens risquent de dire demain, on nous a méconnus, alors nous sommes dans notre état. Voilà, on doit raisonner. Je pense que nous avons commis la grosse erreur de prendre un parti de la rue. Le parti de mon ami, en le mettre au pouvoir. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont des cadres à même de s'asseoir et de dire ce que nous voulons faire ici, c'est du danger.
Merci beaucoup.
Alors, je suis en train d'atterrir. Mikhaïl Gorbatchev, quand il prend l'ex-IRSS, les gens ont applaudi. Il avait de bons discours, la perestroïka, le reste. Les gens ont applaudi. Les troubadours autour de lui ont pensé qu'il était le sauveur. Vous avez vu ce qu'ils ont organisé à Kinshasa, les états-majors de la justice, les états généraux de la justice. Pour une fois, j'ai entendu appeler par tous les qualificatifs Félix Tshisekedi, le roi soleil et je ne sais quoi. La seule chose qui lui est restée, c'est de l'appeler Dieu Tout-Puissant. Et que donc, les gens qui ont applaudi Mikhaïl Gorbatchev ont pleuré après lui. Ni c'était Poutine, l'arrivée de Poutine, l'IRSS, ou disons la Russie n'existerait plus. Et que donc, je me dis, où est notre Mikhaïl Gorbatchev en Afrique aujourd'hui? Où est notre Gorbatchev? Où les cherche-t-on encore au Congo? Nous devons faire attention.
Merci, merci beaucoup. Daniel, votre analyse de l'extérieur, comment vous analysez la question?
Merci beaucoup. Heureusement que moi je suis un indépendant. Et je crois que les problèmes aujourd'hui dans notre pays, j'aime un célèbre auteur, Olivier de Sardin, dans son ouvrage sur l'anthropologie du développement, lorsqu'il parle sur le développement comme discours et son enchevêtrement. Et donc les uns des autres, que ce soit les amis de l'opposition, que ce soit les amis de la société civile, les discours c'est par rapport à l'enjeu. La constitution, n'est pas modifier la constitution d'abord, c'est une violation de la constitution. Parce que c'est la même constitution qui prévoit qu'elle peut être modifiable. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour modifier la constitution. Il y a des articles qui sont verrouillés, mais qui doivent être soumis au référendum pour que cela, la population accepte et adhère. Moi comme Daniel, dans quel contexte la constitution de la RDC a été élaborée à l'époque où on avait certains Rwandais, certains Burundais, certains Ougandais, certains Éthiopiens et consorts. Et chaque parti, la tendance a été d'imposer des articles qui racontent ses aspirations par rapport à la gestion du pays.
Comme quoi?
Nous sommes dans un contexte différent où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de belligérants. Les Congolais citoyens comme nous et nos enfants qui ne se retrouvent pas dans cette constitution, nous devons mettre en place une constitution
qui doit.
Écoute, la revue institutionnelle, elle est normale. Que ce soit une structure qui a des statuts, que ce soit une constitution, la constitution doit être adaptée par rapport au contexte. Ça, il faut le retenir. Il y avait une guerre par rapport à l'article 72, 73, 74, où la constitution prévoit que le chef de l'État ne peut céder le pouvoir qu'à un autre président de la République élu. Mais les amis se référaient toujours à cet alinéa. Mais pourquoi on ne doit pas être clair? Lorsque le chef de l'État ne veut pas organiser les élections, il faut éclaircir. Est-ce que d'office il doit laisser le pouvoir? Pourquoi nous devons avoir un parlement constitué de 500 députés? Pourquoi nous devons avoir un Sénat qui ne nous sert à rien? Pourquoi on ne peut pas aller dans le fédéralisme? Pourquoi il y a d'autres qui réclament d'autres provinces? Parce que nous avons trouvé qu'il y a des défis dans la gouvernance.
Ce qui signifie vous que c'est opportun de...
Pour moi, c'est opportun. Mais le débat, c'est autour des matières à réviser. Le débat, c'est autour du contexte dans lequel cette constitution sera dédiée.
Daniel, il faut préciser que en écoutant le chef de l'État, il ne s'agit pas d'une révision, mais plutôt d'un changement.
C'est ça le débat. En fait, ça serait ça le débat.
Donc, est-ce qu'il faudra qu'on va mettre la constitution dans le panier? Et
oui, on doit. Le débat, c'est ça. Est-ce qu'on doit tout modifier? Ça serait ça le débat. Que ce soit l'opposition, même les amis de l'opposition, quand bien même vous-même, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent qu'on doit aller dans le régime présidentiel, où le président de la République, il a le plein pouvoir et il a un vice-président. Comme ça, on quitte le régime semi-présidentiel. C'est normal. Donc, il y a plusieurs choses, M. Expedi, qui nécessitent d'être modifiées. Moi, Daniel Mouroula, comme citoyen, j'ai dit comme citoyen de la RDC, je suis pour la modification de cette constitution.
Merci beaucoup, Bagabo.
Donc, les amis de l'opposition, conclusion. Les amis du pouvoir, évitez de confronter la population. Nous allons éclairer la population. Merci. Par rapport à la pertinence de cette modification. Merci. Ou le changement.
Bagabo, justement, comment vous allez vous comporter pour aboutir à votre perspective qui est de barrer la route à cette initiative?
Bien, nous allons procéder par... des sensibilisations, et c'est ça ce que nous demandons. M. Félix Tshisekedi, il doit nous éviter la tyrannie, parce que la tyrannie n'a pas d'amis. Nous sommes en train de sensibiliser la population telle que lui-même et ses lieutenants sont en train de le faire. Nous devons nous exprimer par rapport à ce que dit cette même constitution pour nous éviter du pire. Vous avez suivi moi je continue toujours à dire que M. Félix Tshisekedi doit toujours se rappeler que nous ne vivons pas seuls. Il venait de conclure un accord avec la Banque mondiale, la FMI, pour des dons, pour de l'argent, ainsi de suite. Alors quand nous on dit par exemple que c'est ça le problème, on ne doit pas promouvoir cette unité africaine, est-ce que nous allons quitter l'unité africaine et donc l'Union africaine? Nous allons continuer à sensibiliser, nous sommes engagés avec tous les acteurs, et c'est un appel que nous faisons à tous les acteurs vraiment épris de paix et qui comprennent, qui voient les dangers par devant cette initiative du pouvoir en place, de venir et d'être aux côtés de l'opposition, aux côtés des personnalités qui comprennent pourquoi il n'est pas opportun de passer à une telle action pour le moment dans notre pays. Nous venons d'évoquer l'état dans lequel le pays se trouve. Il y a la guerre, il y a les insatisfactions par-ci, par-là. Il faudrait que le pouvoir se mette d'abord à finir avec cette guerre, qui stabilise le pays, qu'on donne le pouvoir d'achat à la population et tout ce que nous sommes en train de rechercher pour le bien de cette même population, afin de réfléchir sur des choses comme celle-là. Parce que vous savez, si une fois le pouvoir se met à travailler, on peut facilement, progressivement, on sera en train d'expliquer aux gens, mais nous on travaille, mais à tel niveau on est bloqué. On travaille, mais à tel niveau on est bloqué. C'est finalement la population elle-même qui dit non, mais allez-y. Et c'est aussi une mise en garde que nous allons donner à nos députés nationaux, parce que nous avons bien suivi le discours d'hier, que non, à partir du Parlement, on peut le faire, bon, et le cas échéant, on peut consulter la base. Que les députés nationaux évitent de se vendre cette fois-ci à vil prix.
Merci, Bagabo.
L'Assemblée nationale doit se concentrer sur les sociales, les questions purement sociales de la population.
Merci beaucoup.
Et c'est pour cela que nous avons envoyé ces députés à Kinshasa.
Merci beaucoup. Nous clôturons cette émission avec l'invité du dimanche, qui est le député honoraire Bertin Mubonzi, ex-président de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Très chers auditeurs, merci pour votre attention. 10h30 à Bukavu. Jean-Claude Ndagué assure la mise en œuvre devant ce micro pour la présentation. Expédie Kialou, bon dimanche.
Merci beaucoup.
Personnalité d'ici ou d'ailleurs, c'est une femme ou un homme d'influence sans citoyen, avec un morceau à cracher. Il jette un regard sur le monde, l'Afrique, la RDC et le Sud-Kivu. Enjeux historiques, géopolitiques, économiques ou encore socio-environnementaux. Ils échangent sur tout ce qui est au menu, même le plus grand sujet d'actualité. Ils s'installent, répondent à nos questions et vous l'écoutez. Tout le dimanche, à partir des 10h, suivez Radio Mandeléo, suivez l'invité du dimanche. Et du dimanche.
Honorable Bertin Mubonzi, bonjour.
Bonjour.
Vous voici dans la ville de Bukavu, plusieurs mois après décembre 2023, un mois qui a vu l'organisation des élections générales en RDC, y compris au sud Kivu, plus précisément à Bukavu, votre circonscription électorale. Vous étiez parmi les candidats députés nationaux, malheureusement vous n'avez pas réussi à obtenir un siège. Quel a été votre sentiment après justement ce pari que vous vous êtes fixé, mais que vous n'avez pas obtenu?
Je dirais un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que, rappelez-vous, je suis parti de Bukavu, ça faisait quand même plusieurs années. Je suis arrivé à Kinshasa où j'ai fait mes études de droit, et donc je suis avocat de formation et de profession. Et pendant que j'étais étudiant, la ville de Bukavu à l'époque était entre les mains de Mutebusi. Là, nous sommes autour de 2004. Et je me retrouve à la tête d'un grand mouvement des étudiants qui a permis à ce que la ville de Bukavu soit libérée à cette époque-là. Et après, j'ai fini mes études, j'ai commencé ma vie professionnelle jusqu'à me retrouver en politique. Et c'est ici les lieux de préciser que ma première législature comme député national à l'Assemblée nationale, c'était à partir de Kinshasa. Et donc, pour moi, c'était quand même important de revenir pour essayer de me familiariser avec la ville de Bukavu, avec la population de cette ville. Et je crois que sur ce point précis, mon objectif a été atteint. Et donc je suis très satisfait, nous avons battu campagne, ça nous a permis d'être très proches de notre population, de comprendre les difficultés qu'ils ont, mais aussi ça nous a permis d'avoir aujourd'hui beaucoup de gens qui comptent beaucoup sur nous et qui nous ont fait confiance. Et ça, c'est déjà quelque chose pour moi, hein, de très très important et qui va me permettre, hein, de continuer à entretenir. Et c'est la raison même de ma présence, hein, pour que nous puissions nous rassurer que nous pouvons continuer à être, disons, des personnes d'espoir pour cette population de Bukavu.
Vous avez quitté la ville, vous l'avez vous-même évoqué il y a très longtemps pour y venir quelques années avant les élections de décembre 2023. Mais qu'allez-vous faire cette fois-ci pour rester connecté au contact de la ville de Bukavu et de la province du Sud Kivu et pour participer à la construction, au développement et à l'émergence de la province?
Bon, vous savez, nous sommes aujourd'hui face à une alternance générationnelle. Et moi, je pense que je fais partie, hein, comme plusieurs autres, hein, jeunes comme moi, hein, de ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, demain, hein, pourront jouer un rôle beaucoup plus important encore dans ce pays. J'étais à l'Assemblée nationale, président de la commission, de la grande commission défense et sécurité. J'avais remplacé Jeannette Kabila et nous ne nous sommes pas arrêtés là. J'ai été élu par mes pairs comme président de tout le président de commission défense et sécurité des parlements d'Afrique. Et donc j'ai travaillé dur. Et c'est là pour l'intérêt de la République, mais aussi, hein, ça fait la fierté, je pense, hein, de notre ville, Bukavu, parce que lorsqu'on m'identifie comme étant un garçon de Bukavu, hein, qui, dans sa façon de travailler, met du sérieux et permet quand même aux gens d'apprécier les résultats du travail que nous faisons, je crois que ça fait notre fierté. Et donc, je suis aujourd'hui très optimiste et je pense que nous devons regarder l'avenir et mettre vraiment l'accent sur la méritocratie et espérer que nous pouvons avoir le maximum de personnes qui méritent et qui peuvent demain ou après-demain apporter un plus dans le bien-être de la population congolaise et plus particulièrement de Bukavu.
Vous avez monté une structure dite escalier qui avait pour vocation la mise en œuvre des actions philanthropiques en faveur des nécessités. Mais depuis un temps, nous constatons que la dynamique n'est plus active. Pouvons-nous conclure qu'elle a été créée pour de fins électoralistes?
Bon, je ne dirais pas que c'est pour de fins électoralistes. Il est vrai que nous sommes arrivés à un moment où il fallait, comme tout le monde, poser des actes. Et ce sont des actes que nous avions posés d'abord parce que nous voulions le faire, par amour pour notre population de Bukavu, mais aussi parce qu'il y avait les élections en vue. Mais si vous regardez les réalisations, lorsque j'arrive à Buolo 2, je trouve les enfants jouer par exemple au volleyball sur un terrain en terre. Ça m'a touché personnellement. Moi, j'ai grandi à Buolo 1er et donc j'ai investi de l'argent. Je construis un terrain aujourd'hui qui est là. Ça n'a rien à voir avec les élections. Les jeunes continuent à bénéficier de ce terrain et d'autres actions qu'on a eu à faire dans la ville. Et donc je crois que aujourd'hui, c'est vrai, il y avait escalier. Et demain, il y aura peut-être une autre structure, hein, sur laquelle nous allons nous reposer. Hein, question pour nous de nous rassurer que la structure va nous permettre de poser plus d'actes qui vont aller dans le sens de soulager tant soit peu la souffrance de notre population.
Le débat au niveau national, c'est le changement ou la révision de la Constitution, une initiative du président de la République et du parti UDPS. Vous faites... justement, front commun avec l'UDPS, vous comme UNC, je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC, mais l'on constate que l'UNC reste muet comme parti politique dans ce débat. Est-ce que cela signifie que vous ne partagez pas la même vue que l'UDPS par rapport à ça?
Bon, vous savez, c'est des questions, c'est vrai, c'est une question très sensible, mais la seule réponse que je peux donner, c'est l'union pour la nation congolaise, avec à la tête notre président, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. C'est un parti qui, aujourd'hui, est plus préoccupé par trouver des réponses aux préoccupations des Congolais. Nous nous sommes mis ensemble avec le président Tshisekedi pour que nous puissions l'aider à concrétiser toutes les promesses qu'il a eu à faire. Ce sont des promesses de campagne. Et aujourd'hui, nous, en tant que UNC, nous pensons que l'objectif pour nous, c'est de continuer à travailler aux côtés du chef de l'État pour lui permettre de concrétiser toutes ses promesses. Et donc, nous sommes plus préoccupés par ça. Et toute autre chose, pour le moment, reste encore un peu comme un sujet qui est débattu en interne, en attendant que, officiellement, le parti puisse se prononcer.
Mais pour vous, individuellement, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on change la constitution ?
Moi, je crois que ça vaut plutôt la peine de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et nous avons beaucoup de problèmes. Et donc, aujourd'hui, nous devrions avoir la capacité de prioriser, avoir une priorisation de préoccupations. Et donc, il faut qu'on se mette et qu'on se regarde en face et qu'on se pose la question de savoir qu'est demande la population pour le moment. Et je crois que pour le moment, il y a la paix, il y a la famine, il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. Et peut-être que le changement de la Constitution pourrait occuper une place. Mais en termes de priorité, moi, personnellement, je pense qu'il y a des préalables et qui devraient plutôt attirer l'attention de nous, politiques. Et puis, par la suite, nous pouvons toujours réfléchir et voir qu'est-ce qui devrait être fait pour que nous puissions améliorer les choses et permettre aux Congolais de vivre dans la paix, la sécurité et d'être fiers d'appartenir à cette grande nation.
Comme acteur politique de haut rang, pour vous, quelles peuvent être les incidences politiques et sociales, même économiques, si cette initiative allait jusqu'au bout, l'initiative du changement de la Constitution ?
Mais écoutez, personnellement, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Nous avons des exemples, vous vous rappelez, à l'époque de Kabila, il y a eu une initiative dans ce sens, et nous savons comment les choses s'étaient passées. Et donc, je ne dirais pas que la situation de l'époque, c'est la même situation qu'aujourd'hui, mais je pense plutôt, comme je venais de le dire, que nous devons, et ça c'est très important, ça je vous l'ai dit, parce que je suis, non seulement, je suis à Kinshasa de manière permanente, je suis dans les institutions d'une manière ou d'une autre, je sais à peu près comment les choses se passent. La priorité aujourd'hui, pour moi qui suis dans le domaine sécuritaire, c'est d'instaurer la paix et la sécurité dans notre pays. Permettre à la population de bénéficier de nos richesses et que les gens puissent vivre. Aujourd'hui, quand vous vous promenez, vous allez vous rendre compte que la misère bat son plein. Les gens ont très faim, les gens ont du mal à faire étudier leurs enfants. Ça, ce sont de préalables, c'est une situation vraiment minimum qu'il faut résoudre très rapidement avant de commencer à réfléchir sur d'autres préoccupations qui peuvent soit réussir ou pas réussir et créer encore d'autres problèmes pour le pays.
Vous avez parlé de la sécurité. Le Parlement va de prolongation, disons prorogation en prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Beaucoup d'argent est investi pour la prise en charge des éléments sur le terrain, mais la sécurité tarde à être retrouvée dans ces zones bien ciblées. Qu'est-ce qui en est la base ?
Bon, écoutez, vous savez, en tant que président honoraire de la Commission Défense et Sécurité au niveau de l'Assemblée nationale, je suis contraint par moment de ne pas trop m'exprimer sur certaines questions, surtout sur des questions aussi sensibles que la sécurité. Mais moi, je voudrais tout simplement rappeler ici que nous avons des obligations en tant que Congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas deux armées, nous avons une seule armée, c'est les FRDC. Et nous sommes appelés tous à soutenir notre armée. Soutenir l'armée voudrait dire permettre à cette armée de monter en puissance. Le budget de l'armée, c'est un budget qui, à un moment, n'était pas suffisant. Moi-même, j'ai initié, ensemble avec le ministère de la Défense, plusieurs missions pour obtenir la possibilité d'avoir un compte spécial d'affectation pour la Défense qui pouvait être alimenté et permettre d'avoir un autre budget supplémentaire en dehors de la quotité qui est prévue par le budget national et qui n'est pas suffisant. Donc le budget, aujourd'hui, pour notre système de défense, il est là. Beaucoup d'argent sont investis dans ce domaine, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai toujours dit, et je le répète encore une fois, il faudrait qu'on mette un accent sur le contrôle de la chaîne de dépenses de la défense. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on sorte l'argent et que cet argent puisse servir d'enrichir certaines personnes au sein de l'armée, de la police et le système de défense. Donc c'est très important. Mais sinon, aujourd'hui, la préoccupation devrait être celle de soutenir notre armée, soutenir le commandant suprême qui a exprimé sa volonté de voir la guerre mettre, arriver à sa fin. Il s'investit sur le plan diplomatique. Le président de l'Assemblée nationale, il est surtout le front avec la diplomatie parlementaire. Et moi, je crois que les choses pourront peut-être aller petit à petit en s'améliorant. Et on espère que la guerre pourra se terminer et nous allons permettre à notre population, finalement, de vivre dans la paix, parce qu'aujourd'hui, ils ne demandent que la paix, rien d'autre.
Et à quoi ça sert de maintenir l'état de siège dans les deux provinces quand on est incapable de restaurer la paix?
Bon, écoutez, l'état de siège a été décidé par le président de la République et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement passe chaque 15 jours pour demander sa prorogation. Mais c'est une prorogation qui est demandée sur base d'une évaluation qui est faite par le gouvernement. Alors, les dernières plénières, vous avez suivi, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé qu'il y ait une enquête parlementaire, que les députés nationaux puissent s'investir pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe sur terrain. Mais entre-temps, on a demandé qu'une évaluation soit faite. Je voudrais quand même préciser ici que moi, en tant que président de la commission défense et sécurité, j'ai organisé une évaluation de l'état de siège au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai participé à toutes les évaluations sur terrain avec le ministre, le premier ministre Samalou Kondé, qui est aujourd'hui président du Sénat. Et le chef de l'État a tenu plusieurs réunions auxquelles j'ai participé personnellement, jusqu'à organiser la table ronde, où j'étais moi-même un élément majeur. Et cette table ronde a permis au chef de l'État de prendre certaines mesures pour alléger l'état de siège. Et donc aujourd'hui, on ne va pas inventer la roue. Ce qu'il faudra faire, c'est une évaluation profonde et voir, dans la mesure du possible, quelles sont les décisions qui doivent être prises, avec comme objectif, c'est rassurer que la décision qui sera prise va garantir la paix et la sécurité à nos populations.
Ce sera justement la dernière question. Comment arrive-t-il que les députés élus du Sud Kivu, vous allez parler justement, ayant une expérience parlementaire, n'arrivent vraiment pas à obtenir plusieurs projets d'infrastructure, notamment la réhabilitation de la route nationale numéro 2 qui va de Bukavu jusqu'à Walungu et même jusqu'au fin fond à Mwenga et Shabunda? Les députés y sillonnent à maintes reprises, ils l'annoncent par voie des médias et publiquement, mais ces infrastructures tardent à être réhabilitées. C'est vrai qu'il y a une note positive avec le début des travaux à l'aéroport de Kavumu. Comment ça se justifie qu'on n'arrive vraiment pas à obtenir des grands projets en faveur de la population du Sud Kivu, que ce soit en étant parlementaire ou en étant dans le pouvoir public au niveau national?
Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrête à un moment la démagogie. Il faut que nous puissions prendre conscience. Lorsqu'on essaie de regarder les différents pays qui nous entourent, vous allez vous rendre compte que dès que vous y arrivez, c'est vraiment un autre monde. Et dès que vous entrez en République démocratique du Congo, c'est la misère perceptible. L'état des routes, l'état des infrastructures, et parfois vous avez l'impression qu'il y a vraiment un souci dans la gestion même de la chose publique. Et donc moi je pense qu'il est temps qu'on arrête avec la démagogie. Et vous savez, la concrétisation d'une décision, la décision elle a été prise. Il est question aujourd'hui de construire toutes les routes que vous avez citées, la route qui va d'ici jusqu'à Goma, la route de Ngomo pour aller jusqu'à Uvira, la route de Walungu. Ce sont des routes qui ont été déjà identifiées et il faut que les choses sérieuses soient faites. Cela veut dire construire toutes ces routes. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est est-ce que tout le monde joue sa partition? Et donc les députés nationaux, ils sont là pour voter les lois, mais aussi pour mettre en place le budget, c'est l'autorité budgétaire. Donc le budget est là, le gouvernement doit exécuter ses budgets, le député ne faut que contrôler pour se rassurer que l'exécution se fait comme il se doit. Mais ici, il est question de se rassurer que dans la chaîne, tout le monde joue son rôle. Et il faudrait avoir un œil ouvert pour que nous puissions mettre fin au détournement de fonds qui sont alloués pour le développement, mais aussi pour la construction de toutes ces infrastructures que vous avez citées.
Monsieur Bertin Mubonzi, je rappelle que vous êtes député national honoraire, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale lors de la législature passée. Radio Mandeléo vous remercie.
C'est moi qui vous remercie et je remercie encore une fois la population de Bukavu pour m'avoir fait confiance. Il est vrai que pour ces élections passées, nous n'avons pas pu arracher le siège, mais nous avons vu la volonté de cette population de nous porter. Et moi, je peux rassurer cette population que je reste attaché à elle et je reste déterminé à jouer mon rôle. Et mon rôle sera celui de les défendre, mais aussi celui de défendre la République partout où je me trouve.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Personnalité d'ici ou d'ailleurs, c'est une femme ou un homme d'influence, sans citoyen, avec un morceau craché. Il jette un regard sur le monde, l'Afrique, la RDC et le Sud Kivu. Enjeux historiques, géopolitiques, économiques ou encore socio-environnementaux. Ils échangent sur tout ce qui est au menu, même le plus grand sujet d'actualité. Ils s'installent, répondent à nos questions et vous l'écoutez. Tous les dimanches, à partir des 10h, suivez Radio Mandeléo, suivez l'invité du dimanche. Du dimanche.
Dialogue, Mazungumzo ndi chokiti cha amani. Dialogue, Mazungumzo.
Hakuna kilicho
ya mpango wake en direct du village. Radio Maendeleo inanda hii siku ya Mungu tarehe 17 Novemba mwaka 2024, kipindi ya hadharani kwenye soko ya Lwakabiri kwenye kata Chiriri mtaani Bagira hapa mjini Bukavu tokea saa 6 za mchana. Kipindi hiyo itagusia maendeleo ya mahali, pia jukumu za wakaaji pamoja na viongozi kwa ajili ya maendeleo ya eneo hiyo. Nukta pia kuhusu uongozi wa soko ya Lwakabiri na ni namna gani soko hiyo inachangia kwa ajili ya maendeleo ya eneo hilo, pia mazingira ambamo wanatumika wachuruzi kwenye soko ya Lwakabiri. Miaka nyingi kisha kuundwa kwa soko hiyo, hii inaonekana kutofaidia na msaada toka viongozi kwa ngazi zote. Na ndio kwa maana wahudhuriaji kwenye kipindi hiyo watapewa kauli ili kila moja aweze kutoa maoni yake kuhusu umuhimu wa soko hiyo katika mtaa wa Bagira. Zaidi ya hiyo, wahudhuriaji kwenye kipindi hiyo hadharani watapewa pia kauli ili waweze kutoa mchango wao kuhusu umuhimu wa kata Chiriri na Kasha ambazo zinaweza kusaidia kwa kupunguza idadi ya watu wanaojia hapa mjini Bukavu kutokana na maafa mbalimbali yenye kujitokeza kila leo kuhusu ujenzi kiolela. Kwa hiyo, Radio Maendeleo inaalika wana memba wa shirika la raia, miungano ya vijana, miungano ya kina mama pamoja na wakaaji wa Chiriri na kandukandu kushiriki kwa wingi kwenye kipindi hiyo hadharani itakayoanza saa 6 za mchana kwenye soko ya Lwakabiri katika mtaa wa Bagira pa Chiriri. Ijulishwe kwamba kundi kubwa duniani kuna mambo ya Radio Maendeleo itakuwepo kwa ajili ya kufurahisha wahudhuriaji. Radio Maendeleo, zaidi na bora kwa ajili na pamoja na wasikilizaji wake. Karibu kwa wote.